Il marche. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venus. On va essayer de tenir la soirée. En tout cas, ma voix va essayer de tenir. Donc, par égard, comme je disais, pour qu'ils soient en retard, on va commencer presque à l'heure. Et on va donc essayer de se promener dans cette galaxie de la révolution Internet. Ceux qui ont suivi le cycle organisé par la Ligue de l'enseignement sur l'ensemble de ces sujets médiatiques me connaissent un peu, mais je vais redire en un mot que je m'appelle Loïc Hervouette et que je suis journaliste, encore aujourd'hui formateur, notamment sur des questions d'éthique professionnelle, et que j'ai donc une revue qui s'appelle L'année francophone internationale, qui est ma dernière activité professionnelle, ayant été avant médiateur de RFI, puis président directeur de l'école de journalisme à Lille, et puis un tas d'autres choses dans d'autres journaux, et y compris ici. Pourquoi ici? Parce qu'à Centre-Presse, j'ai été patron de Centre-Presse quelques années, deux ans et demi à peu près, quand le groupe NRCO a racheté le journal au groupe Hersant. Voilà, on va attaquer tout de suite, si vous voulez, le fond du sujet, avant que je vous présente les intervenants. Par conséquent, je crois que si on clique, ça doit être bon. Oui, ça c'était moi, c'était bien. Allez, on a pris comme sujet quelque chose d'un peu ambivalent. Donc, fossoyeur de la presse ou moteur du journalisme, il vaut mieux que je me rassoie peut-être pour vous. Et c'est vrai que, je ne sais pas si Géraldine sera d'accord avec ce système, ou Erwan Le, ou je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a depuis la naissance d'Internet des opinions quelquefois assez sévèrement tranchées sur le sujet, du genre c'est Satan ou du genre c'est le bon Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'on a des militants absolus et des foudingues, et on a en même temps des contempteurs, comme disaient les vieux mots français, ou des critiqueurs assez patentés. On va essayer de regarder tout ça, mais d'abord prendre conscience quand même de l'ampleur du phénomène lui-même. J'ai évidemment arrondi, et tout ça va un peu, hein. Grosso modo, on est 2000 millions d'internautes dans le monde. Ceux qui savent compter, ça fait 2 milliards, quoi. Hein, OK? Bon. Combien il y a d'habitants sur la planète? 6,5, 6, quoi. Hein, bon, etc. Mais ça va aller vite, rassurez-vous. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a un habitant sur trois qui a un accès à Internet. Quand on rentre dans les réseaux sociaux, 850 millions de membres de Facebook dans le monde, 700 millions de comptes Twitter dans le monde. Okay. On va arriver sur la France. En France, il y a 70 millions d'abonnés mobiles, hein, au machin, là. Enfin, au téléphone mobile, quoi, ou maintenant aux plaquettes, hein, tout ce que vous voulez. Bon. Combien il y a d'habitants en France? Eh ben oui, 65,6 aussi, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, etc. Ça veut dire que le taux de pénétration du téléphone et de tout ça, il est de 107%. Chiffre arrêté à l'été 2012. Il y a 41 millions d'internautes, là aussi arrêté à l'été 2012. Hein. Il y en avait 12 millions en 2002. En 10 ans, on est passé de 12 millions de Français allant sur Internet à 41 millions. Il y a 20 millions de comptes Facebook en France, et il y a 6 millions de Twitter français, avec le record du monde qui a été pour Twitter en France, pardon, le record de France de Twitter, qui a été établi le 6 mai, c'est passé le 6 mai, bon, avec 1,4 million de tweets échangés. Voilà pour prendre compte un petit peu de tout ça. La révolution en chiffres, c'est aussi une révolution de consommation du temps et de consommation des médias. La télévision aujourd'hui, c'est 187 minutes par jour, grosso modo un peu plus de 3 heures, quoi. Et voilà qu'Internet est passé en deuxième. 137 minutes par jour, plus de 2 heures. Vous me direz, il y en a qui font deux choses à la fois. Je reconnais qu'en font trois même. Allez, dire la radio, la télévision, le machin. Enfin bref, allez. Tout ça en lisant un bouquin ou une presse écrite, etc. Enfin bref. La radio, 80 minutes par jour, donc plus d'une heure. Et la presse écrite, 40 minutes par jour, moins d'une heure. Que pose comme défi Internet? Je fais rapidement des choses sur lesquelles vous réagirez et les intervenants, bien sûr, aussi. D'abord, des défis aux journalistes et aux journalistes. Le premier défi, c'est le mode de pensée. Avant, on avait un truc, c'était simple. Il y avait le journal qui paraissait le lendemain matin. On attendait le lendemain matin, on faisait dodo, on s'inquiétait pas. Et on sortait à des heures régulières, fixes. Alors, il y avait même des journaux du soir, il y avait des bons, etc., etc. Mais maintenant, il ne faut plus penser dans « j'ai une bouclée à cette heure-là pour m'informer, moi, j'ai le matin, je prends le journal à 6 heures ». c'est tout le temps qu'ils me balancent des infos, mon journal, et même les hebdos, ils vous font leur site internet, etc. Donc vous êtes dans un système de flux permanent qui fait que ça bouge un peu. Le rapport au temps est évidemment le même. La hiérarchisation sur internet, alors on va en discuter après, mais j'essaie d'aller vraiment très vite, mais la hiérarchisation, Laurent ne sera peut-être pas d'accord, mais moi je trouve que quand même, d'une manière générale, quand on se promène sur les accès, sur les fournisseurs d'accès, etc., vous avez souvent des pages vachement bien colorées, des trucs qui défilent, des menus, des trucs super. Il y a plein de couleurs et plein de trucs. Alors c'est vraiment super, quoi. Sauf que, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le moins important? Est-ce que c'est vraiment classé, pas classé, machin, etc.? Alors il paraît qu'il y a même des trucs qui vous permettent de classer vous, bien sûr, ce que vous voulez. Hein. Dire surtout... S'il y a de la faim dans le monde, m'en parlez pas. Hein. Alors ça m'emmerde au dernier degré. Hein. Et puis voilà. Et puis s'il y a, je sais pas, telle ou telle naissance d'un enfant royal, ça par contre vous me le mettez en une, bien en haut, etc. Vous mettez people tout en haut, puis c'est ça qui arrivera en haut, etc. Donc vous pouvez composer vous-même votre truc éventuellement. Mais il y a effectivement un problème de hiérarchisation de l'information dans l'accès à l'information et même quelquefois de nature de l'information. Dans un certain nombre de sites, quand vous arrivez, c'est évidemment pas Mediapart notamment, bon, mais quand vous arrivez, la pub, l'information, la promotion, le clic, il va où, c'est pas toujours évident, et ainsi de suite. On est passé, c'est ça qu'il faut bien comprendre, d'une économie de l'offre, un journal, une radio, une télévision se présenter à vous, vous achetiez, vous lisiez, vous achetez pas, vous faites ce que vous voulez, ça c'était l'offre, et maintenant on est dans un système de la demande. Le système de la demande, il a cet effet, alors on dira pervers ou au contraire formidable, que vous savez, là, vous rappelez l'affiche des trucs américains là, pour recruter les soldats, bah, ça a été la une de Time il y a 5 ans, 6 ans, je ne me souviens plus. Moins que ça peut-être même, oui, peut-être moins que ça. C'était la une de Time, you, vous êtes l'homme de l'année. C'est-à-dire que j'ai décidé que c'était vous, la population d'internautes, qui, au fond, faisiez le monde, quoi, hein, ou nous obligeait à faire ceci, nous obligeait à faire cela, etc. Dans un temps où un fournisseur d'accès, dont je ne sais plus le nom, essayait de vendre l'information sur Internet, il disait, le rédacteur en chef d'AOL, c'est vous. Parce qu'en effet, on pouvait avoir ces manipulations techniques qui vous permettaient de supprimer tel type d'infos, de mettre les autres, et ainsi de suite. Le modèle économique d'Internet, ben c'est une vaste question, on en parlera, hein, avec la gratuité, il ne faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles, qui est évidemment factice. Si ce n'est pas vous qui paye, comme dit l'autre, il y a quelqu'un qui paye pour vous. Hein. Et s'il paye pour vous, c'est parce qu'il vous vend voilà, des choses en fonction de ça, parce qu'il achète votre profil, parce qu'on se le revend, parce que ça vaut tant et tant par au millimètre carré, etc. Et puis l'autre défi aux journalistes, c'est la compétence augmentée du journaliste. Hein. Parce que si l'internaute, il est capable de balancer l'information, de balancer des trucs, de faire des tweets, de raconter au fond que DSK a passé un accord avec un tel, machin, etc., qu'est-ce qu'il fait le journaliste? Il faut qu'en plus, il ait quand même de la valeur ajoutée. Et que s'il se contente de répéter, ça y va pas. Deuxième, rassurez-vous, il y en a pas 50. Hein, mais bon, on va quand même alimenter le débat, ça alimentera vos questions. C'est évidemment un moteur du journalisme parce que ça facilite terriblement les enquêtes. C'est un outil de réception et de transmission. Je vous dis pas, quand on se promenait avec des trucs incroyables. Moi, j'ai mon premier reportage, gamin, c'était en plus à l'étranger, je me rappelle pour Europe, c'était des émeutes à Harlem, et il y avait à l'époque des téléphones qui se dévissaient. Et on prenait notre gros magnétophone, là, le Nagra comme ça, on mettait une prise, on mettait les deux bouts du téléphone dans le téléphone, et on appelait Paris. Et on passait son reportage de cette façon-là, c'était hallucinant, mais alors ça passait une fois sur deux, c'était, bon, maintenant... Vous passez tout en 10 secondes, vous passez en même temps les photos, le machin, le commentaire, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, outil de réception, de transmission absolument fantastique. Un outil de rénovation des sources, des sujets, des experts, des traitements. Si vous voulez le meilleur expert de la culture du cactus en milieu urbain, vous cherchez sur Internet, vous en trouvez 70, quoi. Hein ? Avant, c'était pas de la tarte, quand même, de se faire les annuaires et de se dire qui c'est qui fait ça, quoi. Bon, voilà. Hein. Mais donc, vous pouvez rénover, en effet, un tas de choses. Des mots, des gros mots, parce que j'aime pas beaucoup ces gros mots anglais, mais quand même, quoi. Data, journalisme, alors on expliquera tout à l'heure un peu ce que c'est, hein, et fact-checking, ça c'est encore la mode de maintenant, etc., sont quand même des phénomènes du journalisme nouveau qui ont été rendus possibles par Internet, ou grandement plus possibles par Internet. Enfin, outils d'interactivité avec le public, on a appelé ça, mais je crois avoir inventé la formule, alors je vais pas me gêner, la JAO, c'est-à-dire le journalisme assisté par ordinateur. Et puis pour en terminer, avant de lancer le débat, malgré tout, comme je disais au début, une ambivalence un peu permanente, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est un outil qui est libre, d'accord, mais il est libre pour tout le monde. Hein. Il est libre pour les démocrates et il est libre pour les tyrans. Il est libre pour les gens honnêtes et il est libre pour les pédophiles. Bref, enfin voilà, on fait ce qu'on veut. Il n'est pas cher, oui, d'accord, il n'est pas cher, ça dépend pour qui, quand encore une fois, il y a quelqu'un qui paye pour vous. Deuxièmement, il n'est pas cher, mais enfin, il pose aussi un problème à ceux qui, eux, vendent leur information parce qu'ils ont des moyens, des gens qui y vont, et ainsi de suite. Il est souple, c'est pas mal, hein, on aurait dit c'est un avion furtif autrefois, hein, c'est-à-dire qu'on on y va, on disparaît, on change d'adresse IP, on passe par un autre endroit, etc. C'est souple, c'est formidable, hein, ça permet aux gens d'y rendre, de nous passer des trucs, quoi, hein, sans quoi on ne les aurait pas. Mais ça permet aussi, évidemment, un certain nombre de facilités avec la loi, avec la législation. On en parlait tout à l'heure un peu violemment à table, avec la mise en accusation comme ça d'un certain nombre de gens sans avoir rien vérifié et ainsi de suite. Un média unifiant, c'est pas mal, après tout, si la communauté mondiale, 2 milliards de personnes qui causent ensemble, à mon œil, bon, c'est pas vraiment forcément unifiant. Est-ce qu'on est tous en train de se causer ou est-ce que c'est un truc un peu massificateur, tout au moins qu'unifiant ? Par la langue, pas tellement, croyez bien, l'anglais est en train de foutre le camp sur Internet, il y a maintenant infiniment plus d'expressions dans notre langue. Interactif, c'est pas mal, mais enfin bon aussi, si on suit simplement les idées du public, vous savez, dans la presse écrite, Lazarev disait ça, hein, il faut leur vendre ce dont ils ont envie, on n'est pas là pour faire le journalisme qui est pour l'information, on est là pour chercher l'information qui va plaire aux gens, quoi, hein, bon. Instantané, ça c'est bien, mais instantané c'est rapide, c'est quelquefois un peu trop rapide, ainsi de suite. Transversal, j'arrête parce que c'en est trop. Séduisant, ça c'est formidable. Il y a une petite étude très drôle qui a été faite sur la perception des gens en face d'un écran. Alors, c'est terrible. Hein. Par nature, l'écran tue la vigilance. Mais ça c'est absolu. C'est-à-dire que cette espèce de papillonnement, de couleurs, de machin, de trucs, c'est tellement beau qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a une photo, que c'est faux. On en a fait une étude très précise chez les journalistes professionnels quand les ordinateurs sont rentrés dans les rédactions. Vous savez, grosso modo, il y avait derrière les journalistes qui dictaient un papier ou qui écrivaient un papier, qu'ils donnaient à quelqu'un qui tapait, il y avait des correcteurs. Et le correcteur, quand même, il enlevait une partie des bêtises du journaliste. L'embêtant, c'est qu'en tapant, des fois, il en rajoutait aussi. Mais grosso modo, il y avait un taux d'erreur qui était un taux X. Et puis, est arrivé après l'ordinateur direct où le journaliste, il n'y avait plus de correcteur derrière. Donc, le journaliste, très bon écrivain, comme chacun sait, il n'y aurait pas dû y avoir de fautes. Manque de peau, il y en avait autant, dis donc. Mais comme disait ma grand-mère, c'était des fautes d'erreur, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'ils ne savaient pas, quoi. Qu'ils s'étaient vraiment gourés, que ce n'était pas une faute de frappe où on avait mis un L de trop, mais c'était vraiment des erreurs de méconnaissance ou d'autres choses. Donc la séduction de l'écran, il faut s'en méfier aussi. C'est vachement beau, c'est formidable, etc. Envahissant, j'en parle pas pour ceux qui passent leur matin, leur nuit, leur machin, tout ça là-dessus. C'est bon. Immense, évidemment, c'est merveilleux. Sauf que. Est-ce que vous connaissez ce japonais qui dirige l'UNESCO? Sûrement pas, moi non plus d'ailleurs, mais je l'ai entendu un jour raconter quand même un truc. Est-ce que vous imaginez dans votre vie, est-ce que vous imaginez dans le monde qu'il y a la moitié des gens, on disait 6 milliards, hein, 6 à peu près tout à l'heure, etc., qui n'ont jamais formé un numéro de téléphone? Alors même pas comme ça, ni comme ça, quoi. Donc il faudrait pas non plus croire, d'accord c'est grand, d'accord c'est formidable, mais il faudrait quand même pas croire que c'est le monde entier, quoi. Il y a une bonne partie du monde qui n'y est pas dans ce truc. Quoi. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas sur Internet qu'ils n'existent pas, ou qu'ils n'ont pas le droit d'exister, ou qu'ils n'ont pas des droits aussi grands que les nôtres, et ainsi de suite, etc. Indiscret, j'insiste pas, populaire, modifiable, ineffaçable, c'est l'un des problèmes, on en parlera sans doute, hein. Mais c'est la question du fameux droit à l'oubli. Quoi. J'ai fait une connerie il y a 15 ans, je me présente à un emploi, mon employeur, il me googlise, bien sûr, et qu'est-ce qu'il trouve ? La condamnation amnistiée, bien entendu, mais il trouve que j'avais un peu cassé une bagnole, que j'avais un peu piqué aussi, quoi. Bon, voilà. Hein, mais bon, voilà. Donc, la question du modifiable, de l'ineffaçable, elle est un peu complexe dans tout ça. Pour en débattre ce soir, et voilà, c'était pour amener ça. Deux spécialistes. Géraldine Delacroix, à ma droite. Ça, va, ça te va, tu me diras hein, si ça ne te va pas. J'ai choisi les photos les plus dubitatives que j'ai pu trouver. Donc, elle se pose vraiment des questions. Hein, c'est pour ça qu'elle va vous apporter des réponses. Donc, entre Le Monde et Les Échos, hein, d'abord, Libération. Quand j'ai mis vous, France, c'est les rubriques. Hein, c'est pas, voilà, hein, c'est les rubriques qu'elle a notamment suivies, etc. Et puis, elle passe à Libération.fr, donc en 2000. Fond de l'agence de web documentaire Ligne 4 en 2007, qui existe toujours, absolument. Et qu'on peut aller voir. Oui, j'ai pas mis la référence, excuse-moi. Ouais, bah, Ligne4.fr, bon, si vous avez envie d'aller voir, excuse-moi. Je l'ai pas mis. Et depuis fin 2009, donc, elle est journaliste à Mediapart, et entre autres, elle anime le club de Mediapart. www.mediapart.fr, ça, c'est pas compliqué. Notre deuxième intervenant, Erwan Gaucher. Alors, lui, il est encore plus dubitatif. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'il est sûrement encore beaucoup plus dubitatif en ce moment, parce qu'il est à l'hôpital Pompidou, où l'a gentiment emmené la moto qui l'amenait au train pour venir ici, qui a malencontreusement rencontré un bus à 18h07. J'ai tout ça sur Twitter dans détail, minute par minute, si vous voulez. Bon. Total, bon, il a une cheville de pété, ça c'est ce que lui ont dit les pompiers dans le machin, et il est en train de passer des radios à l'hôpital Pompidou, parce qu'il a des équimoses partout et des machins. Il était sûr de lui avec une moto, ça ne pouvait pas ne pas marcher entre France Télévisions et Montparnasse, et ben voilà. Résultat, notre ami Erwan n'est pas là, mais je vous donne quand même son pédigré, surtout parce qu'il y a ses références et plusieurs choses. Bon, Erwan est un relativement jeune journaliste, on va dire, mais qui est en ce moment consultant, notamment à France Télévisions, qui a été formateur dans pas mal d'écoles de journalistes, parce que c'est un garçon qui a été assez très vite rattrapé par le phénomène Internet et qui est vraiment un des très bons connaisseurs. Si vous voulez suivre un blog qui vous informe sur les médias, ben il est marqué là, quoi. Donc on va dire ça au moins en hommage à lui ce soir. Vous faites www.erwangaucher.com et vous aurez en continu tous les jours. Ce matin, il a commencé à 6h comme d'hab. Vous aurez des informations sur la presse et sur l'évolution dans mon Internet. Il est aussi Twitter comme pas possible. Moi, je ne sais pas quand il dort, ce garçon, mais bon. Donc, twitter.com gaucher. Et je vous ai mis là deux chiffres de référence parce que je trouve que c'est assez intéressant. On parlait tout à l'heure du monstre qui est un peu Internet, dans lequel on ne sait pas très bien se guider. Et notamment, Erwan a listé la liste des 22 blogs qu'il faut suivre. Pas 23, contentez-vous de 22. Il n'y a pas le sien dedans, il est modeste, mais il se doute bien que si on est allé les voir, c'est parce que, bon voilà. Allez, la liste des 22 blogs, la liste des 130 Twitter qu'il faut suivre, si on a besoin d'être à jour sur l'information, et 14 outils, alors là on rentre dans le hard, quoi. Et je dis hard au sens informatique du terme, c'est-à-dire il y a notamment sur le site d'Erwan 14 outils techniques, pour récupérer une vidéo facilement, la monter, la couper en deux, la transmettre, etc., pour afficher, pour envoyer, publier à tel endroit, etc. Il y a tout ça. Voilà, en hommage à Erwan, je vous inviterai à aller voir son titre, mais hélas, il ne pourra pas causer avec nous ce soir. Désolé. On va donc commencer, si on le veut bien, Géraldine, par, dans un plan habilement composé, par te demander de quand même dire trois mots. Ouais, moi, je vais arrêter, je l'avoue foutu en plus. Mais dire quand même trois mots au départ sur Mediapart, quoi. L'aventure Mediapart, c'est quoi? Mais t'as pas 12 minutes, c'est pas la pub. Hein.
Non, je vais pas faire 12 minutes. Donc bonsoir, merci à tous d'être venus. Donc Mediapart fête en ce moment son 5e anniversaire. Le 5e anniversaire du lancement du pressite qui présentait le projet. Et c'était le 2 décembre 2007. Ça fait donc 5 ans et le Mediapart a été lancé quelques mois plus tard, le 16 mars 2008. Donc là, ça a été vraiment le lancement du site presque tel qu'on le connaît aujourd'hui puisqu'il a bien sûr évolué depuis. Donc c'est une équipe de 27 journalistes. Un site payant, c'est une de ses caractéristiques que vous connaissez certainement. Donc c'est un site accessible sur abonnement qui est composé de deux grandes parties, le journal et le club. Donc dans le journal, vous trouvez les articles de la rédaction de Mediapart, enquête, reportage, analyse, interview, en accès 9 euros par mois, oui, 90 euros par an, happy hour toute la semaine entre 17h et 22h, trois articles en accès. Voilà. Et donc les articles des journalistes sont en accès payant et le club ce sont les contributions de tous nos abonnés puisque c'est grâce à vos 9 euros par mois chaque abonné peut contribuer librement à Mediapart c'est le participatif donc chacun peut écrire sur les sujets qu'il souhaite ou publier des vidéos, des photos, de l'audio, tout ce qu'il veut. Cette partie est accessible gratuitement à tous, y compris non abonnés. Et les abonnés peuvent bien entendu commenter, ils ne s'en privent pas, les articles de la rédaction, les articles, les billets des autres abonnés. Ils peuvent aussi s'organiser pour créer des blogs collectifs qu'on appelle des éditions participatives dans notre jargon maison. Donc ce sont souvent des groupes de personnes qui se réunissent autour d'une thématique commune, d'un sujet qui les intéresse. Et qui vont se mettre à plusieurs pour produire de l'information sur tel ou tel sujet. Voilà, alors aujourd'hui, donc, au bout de 5 ans, Mediapart compte 60 000 abonnés. Voilà, c'est l'essentiel.
Oui, c'est ce qu'on appelle un pure player dans les jargons.
Un pure player, oui.
C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait de l'information que sur Internet.
Mais en même temps, pas tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est 95% de notre activité. Nous avons aussi publié depuis la création de Mediapart plusieurs livres issus du travail d'enquête qui a été mené, par exemple sur l'affaire Bettencourt ou sur la présidence Sarkozy. Nous organisons aussi pas mal de débats, de réunions publiques, comme ce soir, avec la rédaction ou des invités. Donc, ce qui nous permet de rencontrer nos lecteurs. Voilà, on organise aussi, c'est toujours sur Internet, mais on organise des soirées de débats en vidéo, donc qui sont organisées dans nos locaux et retransmises sur le web. Ça fait partie du pure player, on peut dire.
D'accord. Aujourd'hui, alors juste quand même pour vous obliger à en parler un peu, la concurrence, si j'ose dire, ou les vrais pure players en France, il y en a quoi, 3 nationaux, je parle.
Les vrais pure players.
Ouais. Alors bon, je sais bien que vous n'allez plus pouvoir.
Lesquels?
Bon, vous n'allez plus pouvoir dire Rue 89
non,
parce qu'il a été
non,
racheté.
Non, il n'y a pas Rue 89, non.
Mais, hein.
Atlantico.
Atlantico, oui.
Slate.
Ah, Slate, exact, pardon, Slate. C'est moi. Atlantico, Slate et. Bon, sur image, on peut.
Après, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plusieurs journaux. Locaux qui se sont créés sur le même modèle que Mediapart ou approchant ou peut-être parfois plus proche de Rue 89. Bon, mais il y a en particulier Dijon Scope qui a été un des premiers à nous suivre, qui était gratuit mais indépendant, fondé par une équipe de journalistes en Bourgogne, qui est aujourd'hui en difficulté financière après un passage à l'abonnement. Ils ont justement choisi d'abord un modèle gratuit. Mais la publicité, ça ne fait pas vivre son homme ni son journal. Donc, ils sont passés à un modèle payant et qui ne leur suffit pas non plus. Voilà, eux sont un petit peu en difficulté, mais nous sommes partenaires aussi avec eux. On les suit depuis le début. Ils sont membres du SPIL, qui est le syndicat de la presse en ligne et qui regroupe voilà, d'autres pure players, là, on peut dire, qui sont aussi moins connus. Par exemple YAG qui est un journal de la communauté homosexuelle. Dans les petits nouveaux, je voulais citer aussi un journal qui vient de se créer à Amiens. Je ne sais plus son nom,
Fakir,
j'ai un
mais
trou.
Mais il y avait le journal écrit qui était comme ça, c'était le Fakir de... à Amiens. Mais
voilà, j'ai un trou de mémoire sur celui d'Amiens.
Quelqu'un est d'Amiens, non, mais... personne n'est d'Amiens. Non.
Voilà, c'est aussi une équipe de jeunes journalistes qui fait ils font un très joli site internet sur abonnement et bien informé. Voilà.
Bon, AmiensPurePlayer.com, vous allez y arriver, voilà. Aucun souci. Bien, allez, ça va pour Mediapart. Revenons à Internet d'une manière générale. Moi, j'ai essayé, mais je vais vraiment vous donner la parole, puisque vous êtes nombreux là. Hein. J'ai essayé quand même de mettre quatre sujets à l'ordre du jour qu'on va d'abord peut-être traiter rapidement, Aldine, le plus rapidement possible, et puis ensuite on rebondira sur vos questions. La première, c'est quand même, qu'est-ce que cette révolution? Parce que ça fait quoi? Allez, 10, 15 ans, grosso modo, 15 ans, ouais, 10 ans vraiment.
Presque 20, c'était quand même la création du site internet de Libé et celui du Monde qui ont été les deux premiers. C'était 1995 quand même. 1995,
oui.
Donc on va vers 20 ans là, mine de rien.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais bon, l'aspect massif, il est un peu plus récent. Mais bon, qu'est-ce que ça a vraiment changé dans le journalisme? Qu'est-ce que ça a apporté, quoi?
Toutes les choses que tu as dites avant, une certaine vitesse qui était avant essentiellement liée à la radio, qui a commencé, dès ses débuts, la radio était un média rapide. Ensuite, il y a eu les télés en continu, plutôt dans les années 80. La presse écrite restait un média assez lent, c'est-à-dire le plus rapide, c'était quand même les quotidiens, tous les 24 heures. Et Internet a permis à des journalistes de presse écrite d'aller aussi vite, finalement, que leurs confrères des radios et des télés en continu. Donc ça permet aussi aux lecteurs d'avoir un autre mode de consommation de l'information qui va être la lecture, et pas l'écoute d'une radio ou le fait de regarder la télé. Un accès aux sources et à des quantités d'informations qui sont accessibles évidemment à tout un chacun, mais qui sont particulièrement utiles aux journalistes au fur et à mesure que tout organisme, toute organisation, presque toute personne s'est mise sur Internet, s'est mise à donner son contenu sur Internet. Enfin, donner son contenu, ça veut rien dire. Ça voulait rien dire à un moment. Mais si vous prenez une entreprise, n'importe laquelle, pour regarder ses comptes, savoir quel était son chiffre d'affaires. Eh bien, avant Internet, il fallait peut-être téléphoner, se renseigner, voir le rapport annuel, etc. Là, vous cliquez, vous trouvez ça en deux secondes, parce que les informations publient elles-mêmes, les entreprises publient elles-mêmes un certain nombre d'informations. Alors, ce n'est pas forcément celles-là les plus passionnantes. Ce n'est pas celles-là qui vont donner lieu à de grands articles. On va plutôt enquêter. Et donc, il y a quand même cet accès à l'information qui est très important. Dans les choses plus récentes, il y a la confrontation des journalistes avec le public, c'est-à-dire l'interactivité. Ce que nous, on pratique beaucoup à Mediapart, mais donc un dialogue permanent entre les journalistes et les lecteurs. Les lecteurs peuvent interpeller les rédactions, donc non seulement commenter, mais discuter, dialoguer avec des journalistes qui vont répondre. Et ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas.
La conférence de rédaction, ils peuvent participer à certains moments.
Pas à Mediapart.
Mais...
Ça, c'est en 89.
Mais n'importe quand. Voilà. Ouais.
Mais le dialogue, oui, dans les commentaires où les journalistes répondent aux commentaires qui leur sont adressés, la plupart du temps.
Ça a coupé la distance, quoi, un peu. Hein, entre
donc, ça a vraiment rapproché le journaliste et son lecteur. Ça, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, assez fondamental.
Et donc, dans le travail quotidien du journaliste, je veux dire, aujourd'hui, Internet, on dit tous que c'est impossible de vivre sans, mais le journaliste, il ne peut pas vivre sans.
Il ne peut pas vivre sans, il s'en sert pour, il s'en sert pour s'informer, il s'en sert pour informer. C'est à la fois un canal d'émission d'information et de réception. Le journaliste, il va sur Twitter, il va sur les réseaux sociaux aussi pour s'informer. Peut-être qu'il va sur Twitter le matin pour voir le matin ou à longueur de journée d'ailleurs, plutôt que d'allumer la radio pour savoir ce qui se passe. Puisque d'autres journalistes qui vont être sur des terrains d'enquête ou de reportage vont alimenter ces flux toute la journée. Donc on se renseigne sur Internet, on cherche toujours des gens quand on est journaliste pour qu'ils nous racontent des histoires, pour qu'ils nous donnent leurs informations, pour qu'ils nous expliquent tel ou tel phénomène. Donc on va aussi les trouver sur Internet, comme Loïc disait tout à l'heure, si on veut un spécialiste des cactus, c'est sur Internet qu'on va le trouver.
Voilà, est-ce que tu as des exemples d'intervention carrément du public, enfin comme ça, dans des enquêtes, est-ce qu'il y a un système d'aller-retour, quoi, hein, dans la construction même de l'information?
Oui, alors j'ai plutôt envie en fait de prendre un contre-exemple, qui va être l'exemple de l'enquête complètement hors Internet, qui peut être par exemple, pour prendre une affaire connue, l'affaire Bettencourt, mais qui est un journalisme aussi qui se pratique aussi sur Internet, et en particulier chez nous, mais qui va être le journalisme d'enquête qui n'est pas lié forcément à Internet. C'est-à-dire qu'Internet ne répond pas à tout et n'apporte pas toutes les informations. Donc l'affaire Bettencourt est partie d'un enregistrement fait par le majordome de la famille Bettencourt qui enregistrait les conversations de Madame Bettencourt avec son chargé de fortune, ou je ne sais plus comment on l'appelait, Patrice Demestre. Cet enregistrement-là n'a rien à voir avec Internet. Cette information n'a rien à voir avec Internet. Donc il y a aussi ce travail à l'ancienne, classique. Internet sert à préparer souvent une enquête, ou alors sert après à la compléter. Après, par exemple, quand on a découvert l'existence de la fameuse île d'Aros, on l'a aussi un peu cherchée sur Internet parce que elle n'était pas très connue. On a essayé, ne serait-ce que par Google Maps, d'aller localiser cette île et de voir à quoi ça ressemble. Et évidemment, la famille Bettencourt ne donnait pas de photos de son île. Donc, il y a des choses comme ça. Sinon, la co-construction d'une enquête, pour le coup, ça serait peut-être pas forcément sur Mediapart que c'est le plus fréquent. Mais on peut faire appel à la participation directe des gens, ce qui a été pas mal pratiqué par E89 à ses débuts. Nous, en ce moment, on a construit une carte de France par circonscription législative. Dans chaque circonscription, on a demandé aux députés s'ils étaient favorables au mariage pour tous, à l'adoption et à la PMA. Un certain nombre de députés nous ont répondu, à peu près la moitié, je crois, au bout de relance, relance et relance. Un certain nombre de députés de droite comme de gauche ne voulant pas répondre pour différentes raisons, mais souvent en disant qu'ils attendaient que la question soit posée au Parlement pour donner une réponse de parlementaire. On a décidé de faire appel à nos lecteurs et de demander à chacun d'écrire à son député pour lui poser la question. Donc on a lancé ça la semaine dernière, ou celle d'avant. Ça commence à rendre pas mal, donc les gens, nos lecteurs, les citoyens. Et puis on a fait un modèle de lettres qui est en accès libre, pour le coup, dans le club de Mediapart. Donc les gens n'ont qu'à recopier cette lettre. Alors là, c'est pratique, Internet. Voilà, on fait un copier-coller, on met le nom de son député dans la bonne case, on envoie un mail à son député, toutes les adresses e-mail des députés sont sur le site de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas besoin d'aller à la poste ni d'ouvrir l'annuaire. Donc les gens envoient, posent la question à leurs députés et certains répondent. Donc, enfin, des députés répondent aux citoyens plus facilement peut-être qu'aux journalistes, parfois, sur certaines questions. Et donc, on a agrandi, on a rempli de nouveaux départements dans notre carte grâce à cette participation citoyenne.
D'accord. Je voulais, tout à l'heure, j'ai fait allusion à deux gros mots là, en anglais. Je voudrais que tu précises un petit peu d'abord ce que c'est et en quoi Internet a marqué une vraie évolution. Quoi, hein. On ne parlait pas de data journalisme il y a, alors là, pour le coup, 5 ou 6 ans.
Il y a 5 ou 6 ans. On parlait encore d'infographie il y a 5 ou 6 ans dans le papier, mais sur Internet, on n'en faisait pas du tout. Donc moi, j'ai travaillé pendant 2 ans au service Infographie Libération. Donc l'infographie, ça veut dire... mettre les informations en images. Donc c'est des courbes, des cartes, des schémas explicatifs pour transmettre des informations qui sont souvent un peu arides ou qui se prêtent pas au récit ou à l'écriture. Donc souvent des chiffres, mais pas forcément. Pour moi, le data journalisme, ça mélange une part de ce travail très ancien finalement, qui est de mettre en forme et donner du sens à des informations en les visualisant, et aussi la recherche d'informations dans des bases de données qui ne se pratiquaient pas tant qu'évidemment il n'y avait pas des bases de données accessibles par Internet. Donc le data journalisme, ça va être le mélange de ces deux modes de fonctionnement. Donc d'abord un mode de récupération de l'info, il va falloir aller la chercher parfois de façon massive justement, c'est-à-dire qu'on va récupérer des collections entières de chiffres. Y a aussi, et puis donc on va essayer de les retranscrire. Alors ce que permet Internet par rapport à un journal imprimé, c'est une interactivité dans une navigation dans des chiffres, dans des courbes. Vous allez pouvoir cliquer sur la courbe et puis avoir des informations supplémentaires, vous allez pouvoir bouger les choses. Ça permet un peu de mettre ces infos en 3D d'une certaine façon et de naviguer et de se balader dans des infos souvent compliquées. Il y a aussi, ce que je trouve intéressant dans ce domaine, c'est les artistes qui s'emparent de ces data, donc de sommes d'informations, pour en tirer des choses, parfois, qui peuvent être artistiques, poétiques, qui peuvent tirer aussi plus vers des choses un peu activistes, qui peuvent faire des cartes parfois amusantes ou dérangeantes. Je pense par exemple à des cartes de présence policière à New York où on s'aperçoit en suivant les effectifs de police en temps réel grâce à des systèmes de localisation, etc., qu'ils ne sont pas forcément là où on les attend. Voilà, peut-être plus dans des quartiers qui n'en ont pas besoin.
Ou, c'est une voilà, qualité des choses pour la ça. Police de ne pas toujours être là où on l'attend. Mais
bon, voilà, on peut bien s'amuser avec les datas, on peut faire des jolies choses, des choses approfondies, intéressantes.
Deuxième terme, le fact-checking. Alors, comment le traduire, mais enfin, on pourrait dire la vérification des faits.
La vérification des faits, c'est
bêtement, mais
en fait, je dirais pas ça. Ouais. La vérification des faits, c'est ça fait partie des fonctions de base du journalisme. On vérifie les informations avant de les publier. Le fact-checking, pour moi, c'est la vérification, souvent de ce que disent des gens qui ne sont pas journalistes, qui vont être des élus, des chefs d'entreprise, des gens qui ont accès aux médias et qui vont raconter des choses qui ne sont pas toujours vraies. On les a souvent laissés en France dire un peu tout et n'importe quoi sans qu'il y ait forcément des oppositions frontales de journalisme, en particulier à la télé. Quand le président de la République est interviewé par un présentateur de journal télévisé, ce n'est pas forcément toujours très rentre-dedans. Le fact-checking, c'est un peu ça, c'est d'aller vérifier si ce que telle ou telle personne a dit était vrai. Donc ça s'est fait d'abord pas en direct, c'est-à-dire on laisse la personne parler, par exemple à la télé, et puis c'est des journalistes de presse écrite en fait, qui vont décrypter ce discours et aller voir si les annonces, les chiffres présentés sont exacts. Maintenant, ça se fait de plus en plus en direct avec des équipes qui justement... vont travailler en collaboration. Je pense que France 2 a fait ça pendant des paroles et des actes, notamment pendant la campagne. Ils avaient leur invité politique, ils avaient derrière des journalistes qui vérifiaient en temps réel ce qu'ils disaient, donc grâce à Internet, et qui essayaient de mettre l'invité face à ses contradictions, ses erreurs, ses mensonges, pourquoi pas. C'est ça le fact-checking.
Et on l'a vu arriver, on l'a vu arriver en radio, on l'a vu arriver, Libé a fait son fameux...
Libé fait une rubrique machin, quotidienne.
Une rubrique quotidienne là-dessus, sur les petits mensonges et les vraies vérités, enfin, sur les cas de figure, quoi, etc. Et donc, c'est vrai que ça a quand même donné cette culture un petit peu...
Je crois que c'est vraiment à Libé qu'il faut rendre hommage là-dessus. C'est eux qui l'ont introduit vraiment
Cette culture de la remise en cause d'une parole officielle, enfin, de la remise en cause pas forcément systématique, mais en tout cas dans un certain nombre
mais
de cas.
Mais au quotidien, en fait, parce que souvent, la parole politique, effectivement, est remise en cause par des grandes enquêtes ou des grands reportages où une fois, on va dire, voilà, là, c'est comme ça et c'est pas exactement ce qu'en disent les élus, par exemple. Mais c'est au quotidien s'apercevoir que tous les jours, tel ou tel autre, quand ils sont à la radio le matin, ils racontent quand même souvent des choses, enfin, ils flirtent avec la vérité, quoi. L'imprécision, parfois, on peut pas totalement leur en vouloir à 100% tout le temps parce que là aussi, il est possible qu'au cours de la soirée, je vous dise un truc qui va se révéler faux, parce que je me serais trompée. Ça peut arriver à tout le monde. Mais contrôler ce que disent ces élus ou ces chefs d'entreprise, le plus souvent, ça a son utilité.
Et flirter avec la vérité, c'est coucher avec le mensonge, disait je ne sais plus qui, mais bon. En tout cas, moi, pour l'instant. Je prenais ça là tout à l'heure parce qu'on n'a pas Erwan ce soir, mais il y a deux autres Erwan qui ont fait un papier. Je ne sais pas si quelqu'un est abonné à Télérama ici, mais il y a un papier assez amusant sur les sentinelles du net, c'est-à-dire sur les modérateurs des sites. Hein. On parlait tout à l'heure de l'utilité, de l'interactivité, de la façon dont ça, etc. Mais en même temps, je crois qu'on a tous fait plus ou moins l'expérience, quand on navigue un peu, de commentaires, je veux dire, restons polis, quoi. Allez, on ne va même pas les qualifier, parce que je crois que beaucoup sont inqualifiables, parfois même incompréhensibles, mais ça c'est autre chose. Et souvent, malheureusement, assez haineux ou portant des messages un peu invraisemblables. Donc il y a dans Télérama, je crois que tu l'as vu dans le train.
J'ai lu sur Internet.
Assez intéressant des deux Erwan, il est sur Internet, mais voilà, bien naturellement, voilà. Voilà comment elle n'achète pas Télérama et qui va se casser la gueule grâce au fait qu'elle l'a consulté gratuitement sur Internet. Non, c'est pas forcément vrai, mais bon, allez. Il y a donc une boîte qui s'appelle Concileo qui notamment raconte ça. J'aimerais bien que tu dises un peu de choses sur la modération. Jusqu'où on laisse des gens s'exprimer, qu'est-ce qu'on peut laisser passer dans des blogs, surtout dans des forums d'un site ou autre chose, quoi.
Alors bon, les forums, il y en a quand même de moins en moins. On va être plutôt dans les commentaires des articles ou dans les blogs. Chaque journal en ligne, disons, a sa politique de modération. Donc un grand nombre de journaux sous-traitent. Donc là, c'est ce qui est très bien expliqué dans cet article. À des entreprises de modération. Donc si vous travaillez dans une entreprise de modération, vous êtes smicard.
Ça veut dire les censeurs, quoi, grosso modo.
Les censeurs, ouais. Donc toute la journée, vous voyez des commentaires qui arrivent sur votre écran et vous validez ou vous validez pas et c'est publié ou ça n'est pas publié. Donc ce qui est assez amusant là dans cet article, il raconte qu'évidemment ça marche 24 heures sur 24. Donc il y a des équipes qui sont dans des pays aux antipodes pour que les gens travaillent la journée pour eux, pour modérer ce qui chez nous est la nuit. Voilà.
Avantage accessoire, il bénéficie du droit du travail d'un pays assez éloigné. Oui, c'est un avantage accessoire.
Oui, mais l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ça va.
En Australie, ça va.
Bon.
Maroc, ça se discute. Mais bon, allez.
Mais c'est moins loin. C'est pas en décalage horaire, c'est pas pareil.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, ce qui est déprimant dans cet article, ce sont donc tous ces modérateurs qui, à longueur de journée, lisent des commentaires abominables, désespérants. Raciste, homophobe, je vous en passe, insultant pour le genre humain en général, certaines personnes en particulier, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on laisse ou qu'est-ce qu'on ne laisse pas ? Donc, chaque journal a ses règles en la matière. Donc, les entreprises qui font la modération en sous-traitance ont des consignes de leurs clients. Nous, à Mediapart, donc, on fait ça. À la main, à la maison.
Alors, c'est quoi vos critères ?
Alors, en fait, le critère de base, c'est qu'on supprime... D'abord, les commentaires ne sont pas modérés a priori. C'est-à-dire que les gens peuvent les écrire et éventuellement, on les enlève après. C'est tout le contraire d'une modération a priori qui va ne empêcher le commentaire de paraître. Donc nous, on n'empêche rien de paraître, éventuellement, on enlève donc a posteriori. Alors, donc on enlève le moins possible. Alors, on enlève des commentaires qui sont diffamatoires pour des personnalités, enfin, ou pas forcément d'ailleurs, ça peut être pour le voisin, pour l'internaute d'à côté, mais ça arrive souvent en fait pour des personnalités connues. On va dire tel homme politique pédophile, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Ensuite...
Bah vous l'avez quand même laissé passer trois semaines, enfin trois quarts d'heure, non ?
Ah bah oui.
Oui. Pourquoi ?
Bah oui.
Bah oui.
Bah oui.
C'est le
bah
risque, oui. C'est ça. Voilà.
Alors en
c'est
fait,
c'est la part du feu de la liberté nécessaire,
oui,
et indispensable.
Voilà, et c'est aussi le côté qu'on peut dire café du commerce, des choses que les gens s'échangent entre eux en vrai. Après, quand ils vont l'écrire sur Internet, enfin, c'est-à-dire que voilà, les gens ont ces conversations dans le monde réel. Évidemment, quand c'est écrit et que ça devient public et que ça sort du cadre privé d'une conversation entre amis. C'est très différent et c'est cette mesure-là qui n'est pas toujours bien perçue par les contributeurs. Donc
la diffamation.
La diffamation. L'insulte publique, bah, ça dépend parce que... Comment vous dire ? On ne peut pas faire que ça toute la journée, quoi, d'enlever les insultes publiques. Donc... On choisit, on laisse que les insultes contre les mecs de droite. Non, on choisit pas. Il y a des degrés. Il y a du débat politique qui passe par des gros mots parfois. Alors voilà, on laisse. Bon. Donc tant qu'on touche à des personnalités connues qui s'exposent aussi dans les médias, qui éventuellement sont susceptibles de répondre, on laisse. Et en fait, on va plutôt enlever quand ce qui est un de nos gros sujets de modération, c'est quand nos abonnés se disputent entre eux et s'insultent entre eux. Ça devient des batailles féroces, terribles, et vraiment des propos qui sont très blessants pour les uns les autres. Alors, il y en a qui résistent très bien à des dialogues assez violents et d'autres pas du tout. Donc, si quelqu'un... subit un commentaire agressif et se sent blessé, on va avoir tendance à ôter ce commentaire, qui peut-être n'est pas pire qu'un autre à côté qui va rester, mais dont le destinataire ne se sera pas plaint.
Il y a des gens qui le demandent, c'est ça. Il y a des gens qui demandent enlever ça.
C'est le système qu'on a choisi qui est basé sur une modération, pas une modération, mais une alerte collective, donc sur chaque commentaire et sur chaque billet de blog aussi. Il y a un bouton alerter qui permet au lecteur, y compris un lecteur qui n'est pas abonné, de signaler un commentaire, ce qu'on appelle entre nous hors charte, puisqu'on a une charte de participation qui reprend essentiellement les termes de la loi. Et donc, ça permet de. Donc, nous, on a notre attention attirée sur tel ou tel commentaire, et on va estimer à chaque fois s'il est bon de le laisser ou de l'enlever. Et souvent. On a des discussions entre nous, bien sûr, mais on laisse des commentaires qui sont racistes, franchement, ou homophobes, parce que c'est un peu les deux grandes questions du moment, parce que derrière est générée une conversation où quelqu'un va s'émouvoir et va expliquer à la personne « tu pouvais pas dire ça pour telle et telle raison, etc. Là, tu tombes dans le panneau, c'est raciste ton argument. » La personne éventuellement va répondre, enfin, ça discute. Et à la fin, c'est plus enrichissant que d'avoir tout jeté. C'est ce qu'on pense. Mais effectivement, c'est un exercice un peu dangereux.
Sur le plan juridique, justement, ou sur le plan légal, la responsabilité de l'éditeur Mediapart est pleine et entière sur tout ce qui est sur Mediapart, par définition.
Pas du tout.
C'est ce que dit la loi. Oh, tu rigoles. Enfin, pardon.
Non, je rigole pas.
Non, enfin, bon, bref. Non, mais il y a eu des procès, des plaintes, etc.
Le journal de Dijon, le journal d'Amiens, c'est le Télescope.
Bravo. Télescope à Amiens, pour tous ceux qui déménagent bientôt.
Ouais.
Ou ceux qui ont envie de créer à Poitiers un truc, il paraît qu'il y a un appel caché, là.
Donc la partie journal de Mediapart est soumise à la loi de 1881 qui réglemente la presse depuis 1881. La partie contributive, le club, est soumis à la loi sur la confiance dans l'économie numérique parce que nous ne sommes que hébergeurs de cette partie. C'est-à-dire que nous n'exerçons aucun contrôle sur ce qui est publié, aucun contrôle a priori. Donc les gens publient en toute liberté. On ne peut pas savoir en permanence. C'est comme sur YouTube ou Dailymotion. Hein. Tout ce qui se publie. Donc nous sommes seulement hébergeurs de contenu posté par nos abonnés. Et à ce titre, notre responsabilité n'est engagée qu'à partir du moment où on est averti, justement. Et quand on est averti selon quelques règles de procédure qu'on aime bien voir respectées aussi, à ce moment-là, éventuellement on intervient. Mais l'internaute est lui-même responsable de ce qu'il publie sur Mediapart.
D'accord. Mais sur la partie journalistique, il y a de la réaction quand même d'éditeurs là-dessus. Les internautes ne s'expriment pas seulement dans le club.
À partir du moment où ils s'expriment dans le journal, ça va être que des commentaires.
Oui, c'est ça, voilà.
Donc, ces commentaires sont traités. C'est leur contribution. C'est eux qui l'ont écrit sans contrôle a priori.
Le journaliste qui a fait le papier sur lequel arrivent quelques commentaires, les relit pas, il est mis à contribution, si j'ose dire, là-dessus.
Le journaliste est largement invité à participer à la discussion qui suit son article, mais bien sûr, les journalistes n'ont pas toujours le temps, pas toujours le moment. Parfois, un article est publié plusieurs jours après qu'il ait été écrit, ou le journaliste est parti en reportage ailleurs, donc ça ne coïncide pas. En fait, c'est parfois difficile, c'est évidemment difficile à percevoir pour le lecteur qui n'est pas informé de la vie quotidienne du journaliste, on a tendance à croire spontanément que quand l'article est publié, le journaliste est là derrière et qu'il vient de le faire. En fait, peut-être que le journaliste est reparti tout à fait autre part et donc il n'est pas là. Mais quand ils le peuvent, quand ils sont là, souvent ils participent aux commentaires, donc ils répondent aux questions, ils font aussi la modération sur ce qu'on appelle les fils de commentaires. Ça fait partie du travail d'un journaliste maintenant sur le web, c'est impossible de faire autrement.
Est-ce que pour en revenir un peu à l'aspect quand même un peu économique, le fait que globalement, la presse mondiale, la presse écrite, je parle notamment, est à peu près globalement en crise partout, ferme des journaux partout, ferme des éditions partout, supprime des choses partout, est-ce que le net n'en a pas une petite responsabilité?
Si, bien sûr. C'est une responsabilité. C'est un fait, à mon avis. C'est indéniable, mais je crois que c'est pas. On ne peut pas accuser les sites Internet. On peut pas accuser Internet. C'est une révolution industrielle, comme l'électricité a remplacé la bougie, et Internet remplace le papier. Et après, chacun essaye. Alors, ce que je crois, en revanche, un peu tragique de la part des quotidiens papier, c'est justement qui n'arrivent pas à trouver la solution, qu'ils essayent de parfois s'en faire, en fait, dans un modèle qui est de toute évidence assez moribond.
Mais quand l'ensemble d'Internet, je ne parle pas des pure players, mais vous êtes quand même une poignée, mais quand l'ensemble de la blogosphère ne pourra plus faire la revue de presse, parce que tout simplement les journaux ne pourront plus paraître, qui va faire les enquêtes, quoi? Qui va faire le boulot, qui va faire l'agence, parce que quand l'AFP pourra acheter par personne, parce qu'il n'y aura pas de clients.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui.
qui va aller couvrir les Jeux Olympiques?
Est-ce qu'on peut. On peut aussi bien dire que c'est la télé, l'information télé en continu qui tue les journaux papier. C'est Internet? Un écosystème qui va largement.
Oui, enfin la télé en continu, elle est souvent payante quand même. Hein. L'Internet, il est gratuit, quoi.
Il est gratuit. Non, d'abord, il n'est pas gratuit parce que tout le monde paye sa connexion à Internet. D'accord. Donc, ce n'est pas complètement gratuit. Donc, ensuite, on demande aux gens de payer. Effectivement, il faut financer le travail des journalistes. Ça, c'est clair. Donc, le travail des journalistes radio, il est financé pour les journalistes du service public par la redevance, pour les journalistes des radios privées par la pub. Ça fonctionne en radio. La télé, c'est la même chose. La presse écrite est un des rares médias à faire payer directement ses lecteurs. Bon, à part les télé payantes, hein, mais il n'y a pas de radio payante, par exemple, directement. Les télés se mettent à faire du web. Elles sont aussi présentes sur Internet.
Bien sûr.
On peut dire aussi que les télés prennent des lecteurs. Tout le monde voilà. Donc il faut effectivement trouver des systèmes de financement. Nous, on a choisi de faire appel exclusivement au financement des lecteurs. On pense qu'il y a là un contrat de confiance entre eux et nous, et qu'il y a aussi une source de revenus beaucoup plus pertinente, efficace, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, que la publicité, qui est fluctuante, qui de tout temps, depuis qu'il y a des journaux qui vivent de la publicité, et ça remonte au 19e siècle, la publicité fluctue au fil des cycles économiques, et quand il n'y a pas de pub, les journaux crèvent. Ça n'a jamais changé. Et donc, dans des périodes fastes, ça marche. Dans des périodes de crise économique, ça marche pas. Entre les deux guerres, ça n'a pas marché non plus. Donc,
Mediapart n'a que l'argent de ses abonnés.
Que.
Il n'y a pas de revente de fichiers.
Pas du tout.
Il n'y a que dalle, quoi.
Il n'y a que dalle.
Il y a un peu de formation, je crois. Non, même pas, non.
C'est non, non, pas du tout. Il n'y a que l'argent de nos abonnés. Non, nos livres, d'accord. Un peu. Après, c'est très marginal.
Oui, voilà. Non, parce que la question, c'est effectivement le financement du journalisme qui coûte cher, quoi. Et je pense en effet à ce qui est un peu l'image de Mediapart aussi, c'est-à-dire le journalisme d'investigation. Du journalisme d'investigation, c'est six semaines, quelqu'un qui ne fout rien, qui publie que dalle, mais qui est en train de courir ici ou là, de s'enseigner.
Qui ne publie rien, oui.
Qui ne publie rien.
Qui ne publie rien, pas qu'il ne fout rien.
Mais non, voilà. Bah oui, mais il faut le payer pendant ce temps-là, il faut quand même qu'il mange, quoi. Bon. Et puis, à la fin, il publie quelque chose, et il ne sait même pas en démarrant s'il va publier quelque chose à la fin, parce que si ça se trouve, il n'a pas assez pour sortir. Bon, il n'a pas assez de biscuits. Donc, qui va financer ce journalisme-là ?
Si on fait une comparaison, Mediapart avec 60 000 abonnés, finance une rédaction de 27 journalistes. Nous sommes à l'équilibre et même bénéficiaires. Libération, qui vend moins de 60 000 exemplaires papier tous les jours, tente de financer une rédaction d'une centaine de journalistes, avec des coûts qui sont largement supérieurs aux nôtres, puisqu'il y a le papier et la distribution, et des recettes. Je ne ferai pas le calcul de 50 000 exemplaires à 1,20 €. Je ne sais pas comment ça fait. Bon.
Bah oui, mais en tout cas, des recettes. Ils n'en touchent que la moitié, puisque le reste va dans le réseau.
Voilà.
Donc, ils ont 60 centimes par exemplaire.
Donc, oui, c'est bien sûr pas le prix qu'on achète le journal. Plus la publicité, bon, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Malgré les recettes complémentaires,
heureusement,
un peu
y a
du web.
Rothschild.
Heureusement, oui. Voilà. Il y a aussi l'État, surtout, parce que c'est un vrai problème du financement de la presse écrite. En France, c'est les aides directes de l'État aux journaux. Si Le Monde, Libération, Le Figaro ne touchaient pas d'aide de l'État, ils seraient fermés depuis longtemps. Donc c'est quand même... c'est un problème. C'est un problème, mais je ne suis pas sûre que ce soit que la responsabilité d'Internet.
Non, mais moi, je dis ça comme ça. Hein,
voilà.
Pour se défendre aussi dans la vie. Hein. Ouais, je voudrais quand même, est-ce qu'on peut parler de ProPublica un peu ou pas? Parce que justement, sur la question financière, je ne sais pas si tu as des données dessus.
Je n'ai pas des chiffres.
Moi, je les ai. Donc
ça tombe bien.
Ouais. Mais quand même. Allez, et tu me diras après, ce que tu en penses. Non, simplement sur le journalisme et l'investigation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, l'agence, un peu l'équivalent de Mediapart américain, hein, mais qui ne fait pas de l'actu. Continue, qui fait que de l'enquête de longue haleine. Hein. C'est le site de Paul Stager, qui est un pseudo-retraité du Wall Street Journal, qui croyait partir à la retraite, et puis il a été rattrapé par Internet, et il a fondé donc ProPublica il y a 5 ans à peine, hein, 4 ans et demi. Et ça, c'est parce qu'il y a 2 milliardaires qui lui ont dit, on te file 10 millions de dollars par an pendant 3 ans. Puis, on commencera à diminuer la subvention. Donc, il faudra que tu te trouves d'autres personnes pour faire ça, etc. Et donc, Steiger a mis en place une rédaction de 22 personnes qui sont payées grâce à cet argent de la fondation et grâce à des dons minimes, hein, parce que vous imaginez bien, quand les gens donnent, c'est pas grand-chose, bon, etc., financés grâce à des dons du public, mais aussi par de nouveaux sponsors qui ont donné, l'année dernière, je crois, 4 millions, et ils pensent passer à 5 millions ou 6 millions d'autres que les fameux donateurs du début, etc. Donc, eux pensent que c'est le mécénat qui est maintenant une des sources principales d'un journalisme un peu assuré. Pour le dire complètement, Steiger a quand même gagné le prix Pulitzer, qui est le grand prix américain sur leur enquête sur la façon dont on avait traité aux États-Unis le cyclone Katrina. Et ils ont eu un prix Pulitzer. C'était quand même une enquête qui avait coûté 300 000 dollars on avait mis sur la table suffisamment de journalistes et de moyens pour y mettre 300 000 dollars avant de publier quelque chose, quoi. Hein ? Donc, est-ce que l'avenir, c'est le mécénat, quoi ?
C'est assez américain, je trouve, le mécénat.
Oui, très, oui, très, très.
Mais donc, en Europe, il y a de plus en plus quand même aussi de pas forcément pas vraiment des journaux, mais des enquêtes. Ça va être plutôt enquête par enquête pour tel ou tel média ou des journalistes indépendants qui essayent de faire financer leurs enquêtes, leurs reportages par ce qu'on appelle le crowdfunding, qui va être un appel aux dons. Donc, il y a des sites qui existent pour recueillir cet argent, des plateformes où les journalistes proposent leurs sujets. Disent j'ai besoin de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000, 10 000 pour faire telle ou telle enquête, reportage, webdoc, pourquoi pas. Et au fur et à mesure, donc, ils accumulent comme ça des fonds et quand il y a le compte, ils peuvent partir. Donc ça se pratique aussi, mais ça reste là pour le coup très très artisanal. On n'est pas tellement dans le mécénat, on est plus quand même dans un truc un peu à la petite semaine où tout le monde a du mal à vivre.
En France, si vous avez envie de donner, je peux faire un peu de pub juste pour ça. Hein. Ça s'appelle j'aime-l'info.fr, collé. Hein, j'aime-l'info.fr, vous allez dessus, puis vous donnez 10 balles, 20 balles ou 30 balles, en euros d'ailleurs, à tel ou tel, soit à tel média, globalement, soit à tel projet d'enquête. En disant, tiens, il y a un type qui veut faire une enquête sur, je sais pas quoi, moi, la culture des calculs dans le désert, comme vous disiez tout à l'heure. Ah ben, ça, je trouve ça passionnant, je vais financer l'enquête pour 10%.
Mais sur ProPublica, par exemple, on a ProPublica permet aux autres journaux, dont nous, enfin, mais comme les autres, donc on en profite, on en bénéficie, de republier ces articles. Donc on publie sur Mediapart des articles en anglais. De ProPublica. Donc pour nous, c'est puisqu'on a une rubrique Mediapart English où on traduit des articles de Mediapart en anglais pour les lecteurs anglophones et une partie club aussi de contributions donc extérieures où certains de nos abonnés s'expriment en anglais et puis on peut aussi donc reproduire des articles de ProPublica donc qui circulent grâce aux milliardaires américains.
Oui, et ce que vend Steiger, c'est qu'il vend aux autres l'exclusivité, c'est-à-dire la première parution. Par exemple, là, il avait vendu son prix Pulitzer au New York Times, qui lui avait acheté pas grand-chose, mais enfin quand même 50 ou 60 000. Voilà, très bien. Donc, en additionnant les ressources de la fondation, plus un certain nombre de reventes comme ça, plus des contributions du public, peut-être que ça fait à la fin des fins, aux États-Unis, un modèle économique. Mais ici.
Oui, donc chaque média essaye d'accumuler comme ça des sources de revenus différentes qui vont être du public, alors soit par le don, le mécénat, l'abonnement, les ressources publicitaires, souvent des ressources complémentaires d'activités annexes, de formation par exemple, ou c'est ce qu'a fait à un moment Rue 89. Donc les gens, et les journalistes, les équipes, les rédactions essayent de trouver des sources de revenus, mais ça, bon, c'est évidemment un modèle qui se cherche. L'information est toujours, comme on le disait au début, comme tu disais Loïc, payée par quelqu'un si c'est pas le lecteur. C'est
donc je vous renvoie à la presse écrite quand même, on ne sait jamais, mais juste une petite référence, c'est Libération du 12 mars 2012 qui raconte comment on est tous pistés, fléchés, etc. Enfin, vous avez tous fait l'expérience d'avoir tapé sur votre internet, je sais pas quoi, moi, Lille, parce que vous alliez vous aviez besoin d'acheter un billet de train de Lille, vous voyez arriver location de bagnole à Lille, appartement à Lille, festival à Lille, machin, etc. Hein, vous avez cherché une plaquette pour offrir à Noël à je sais pas qui, vous voyez arriver tous les trucs. Tout ça est bien entendu vendu, fiché, dupliqué. C'est pour ça que je lui posais la question des fichiers. Eux les vendent pas, mais la plupart, bien entendu, c'est pas les sites d'ailleurs, c'est les fournisseurs d'accès qui les vendent.
C'est pas forcément non plus les fichiers, c'est-à-dire qu'il y avait un reportage pas mal fait à Envoyé Spécial la semaine dernière sur la façon dont justement les données personnelles sont collectées par les différents sites sur lesquels vous naviguez. C'est vrai que quand vous allez sur un site d'actualité gratuit avec plein de publicités, tous les annonceurs qui sont présents sur la page sont informés de votre visite. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait invisible. Vous pensez que peut-être Libération, n'importe quel journal, bon, vous met des cookies, ou voilà, vous savez vaguement ce que c'est. Vous ne pensez pas forcément qu'en fait, il y en a 15 cookies, parce qu'il y a 15 annonceurs dans la page, et qu'il y a 15 fois votre passage, et éventuellement votre identification si c'est sur un site où il faut s'identifier. Et donc, toutes les informations qui vont avec sont recueillies.
l'historique de vos recherches, enfin, bon, etc. etc. Ouais. Quoi. Alors, il y a un petit logiciel qui s'appelle Collusion, je trouve que c'est assez joli comme nom, qui fonctionne sous Firefox. Alors, il faut installer Firefox, mais c'est gratuit, hein, donc vous pouvez le mettre, si vous voulez, sur votre ordinateur, et qui vous permet en temps réel d'afficher avec qui on vous lit sans que vous ayez rien demandé. C'est-à-dire que vous avez un... Vous cliquez sur un article que vous voulez lire et vous demandez résultat collusion. Et collusion, il vous fait des flèches. Et vous dites, tiens, t'es là-bas dans le Figaro Magazine, t'es là-bas dans machin, t'es là-bas dans ceci, t'es là-bas dans cela. Et vous retapez un deuxième mot, prrr, on vous en met 27 autres, et ainsi de suite. C'est assez marrant de se rendre compte comment on est dans la galaxie, quoi. Voilà. Alors, on aime, on n'aime pas. Mais il y a aussi dans le papier de Libé, c'est pour ça que je redonne la référence du 12 mars, puis ceux qui veulent, ils le prendront, je le laisserai, je ne sais pas. Mais il y a aussi les petits logiciels pour se prémunir de ça, quoi. Déjà, enlever les cookies. Ben, sauf que c'est pratique, les cookies aussi, pour plein de
Pour lire cet article, soit vous téléphonez aux archives de Libération, soit vous allez sur Internet.
Voilà, vous allez sur Internet, c'est gratuit. Bon, 12 mars, mais il y a notamment tous les petits outils, en effet, pour se protéger de ça, parce que on ne se rend pas compte, mais comme dit l'autre. Il y a des gens qui le payent dur quand même, hein, ou très dur. Je ne sais pas, vous avez eu des histoires un peu, non, avec Mediapart, peut-être pas
Non, pas vraiment. Mais en fait, c'est, je crois que chacun n'est pas conscient de ce qui arrive à ces infos. Et finalement, est-ce qu'on est vraiment affecté voilà.
Infecté.
Voilà, plus affecté, je voulais dire.
Ah, affecté. affecté, c'est pas mal.
Est-ce qu'on est vraiment affecté par cette récupération de nos infos par Dieu sait qui ? Finalement, est-ce qu'on en souffre beaucoup ? Qu'est-ce qui se passe ?
La liste des spams s'allonge quand même. Hein. Au bout d'un moment, finissez par plus.
Oui, alors, quand vous recevez, quand vous recevez des publicités, des vraies publicités de vraies entreprises qui ont pignon sur rue et qui vous spamment, ouais, voilà, ça, c'est, voilà. Ouais. Ça veut dire que votre nom, votre adresse email a été revendu. Ouais. Les spams Viagra et compagnie, là, c'est autre chose.
On peut assez facilement, en plus, il y a des logiciels aussi pour ça, quoi. Bon, etc.
Ça relève plus du piratage que de...
Oui. Bon, mais enfin, là, on est dans j'allais dire, la scorie du système et les épouvantables choses du système. Au point où on en est, avant de relancer d'autres trucs éventuels, je pense que c'est déjà bien, on a pas mal chauffé sur un certain nombre de sujets. On peut peut-être prendre une première salve de questions de la salle sur différents sujets. Si je remets mes lunettes, en plus, je les vois. Est-ce que... Attends, oui. On va prendre un micro.
Une question qui se pose avec le journalisme sur Internet et qui, a priori, ne se posait pas avant, c'est la réécriture des faits. Par exemple, je me suis connectée sur un journal et j'ai lu les infos. Et puis j'ai réactualisé la page et puis je me suis aperçue, c'était très amusant, que ça changeait tout le temps. Un coup, l'homme politique était arrivé à 18h, un coup, il n'était pas encore arrivé quelques minutes plus tard. Et c'était donc changé en permanence. Voilà, ça pose vraiment des questions puisqu'on va réécrire l'histoire et peut-être que quelques semaines plus tard, l'article aura encore changé. Voilà, je vous pose cette question-là, ce problème-là.
Je ne pense pas qu'on réécrive l'histoire ou qu'on réécrive les faits. Je dirais qu'éventuellement, on corrige des erreurs. Ou alors un journaliste écrit trop vite et s'aperçoit qu'il s'est écrit... Bon. Je pense que vous citez un exemple un peu caricatural. À mon sens, ce qui est une des grandes qualités justement d'Internet, c'est qu'on peut modifier un article, on peut apporter une correction, on peut revenir sur une erreur, on peut justement avoir des nouvelles informations, avoir une confirmation de quelque chose qui était au conditionnel ou avoir au contraire un démenti, et on peut enrichir l'article. Ce qui est important, c'est de le dire, c'est-à-dire que l'internaute le sache et on va dire, cet article a été modifié à telle heure, après que telle information nouvelle soit parvenue. Et donc, voilà, puisque ça ne sert à rien de toute façon de laisser un article avec des erreurs. Faux. Ce n'est pas non plus intéressant. Surtout, ça va durer des années. Donc autant le corriger, l'article, s'il a été mal fait. Mais il faut être transparent, il faut dire, voilà, là on a modifié ça, on a ajouté. Et puis, il y a aussi un autre type d'articles qui sont des articles qu'on va qualifier de live un peu, qui sont écrits quand il y a des périodes d'actualité un peu paroxystiques, où on actualise effectivement minute par minute ou en permanence. Et donc on ajoute des informations. Là aussi, il y a une façon de faire qui va être transparente et qui va être de dire clairement au lecteur, on est dans un mode live, on donne les infos au fur et à mesure qu'elles parviennent. Ça peut être une catastrophe au bout du monde, ça peut être aussi bien l'élection à l'UMP, c'est moins loin. Mais c'est par exemple l'élection à l'UMP. Quand vous avez deux candidats qui disent tous les deux ils ont gagné, Vous, vous dites Fillon a gagné et puis vous dites Copé a gagné. Vous dites, on dit le journaliste se fout de ma gueule ou c'est les deux là qui se foutent de nous?
C'est plus vraisemblable. Bon, enfin, bon,
voilà.
Pardon.
Mais, donc, voilà. Donc, il faut que le contrat avec le lecteur soit clair. Et à mon avis, ça ne pose pas de problème.
Il faut dire quand même que la difficulté par rapport à... Elle a tout à fait raison. Il faut le mentionner, quoi. C'est-à-dire que si vous faites une capture d'écran à 10h12 de votre truc qui raconte ça, et puis que sans subrepticement, etc., en effet, on fait des modifications qui peuvent être substantielles quand même, hein, à 11h12, et qu'on ne vous le dit pas, là je pense qu'il y a un souci, quoi. On ne l'a pas fait. Mais vous savez, quand France Soir existait encore dans le papier, il avait jusqu'à 18 éditions par jour. C'est-à-dire que le papier sur tel sujet qui arrivait ici à Poitiers, par le train tchouf-tchouf de l'époque, il arrivait il y a longtemps qu'il y avait eu 5 autres éditions imprimées à Paris et que le texte avait entièrement changé. Et quand on disait « amenez-moi les archives, ramenez-moi François de telle date hein, » et que François avait tel public, vous aviez-vous bah « oui, François a publié ça » et vous aviez un mec à Paris qui vous disait « mais non, François n'a jamais publié ça ». Vous voyez, bon, alors, c'était pas à ce point-là, ni à cette vitesse-là, quoi. Je pense que là encore, c'est l'ambivalence dont je parlais tout à l'heure. Moi, je crois profondément, d'ailleurs, que tous les outils sont ambivalents. Ça dépend ce qu'on en fait. Mais Internet n'échappe pas à la règle. Bon. Mais si vous faites ça pour rectifier une erreur, pour enrichir une information, pour etc., on va plutôt vous remercier, j'espère. Bon, voilà, à condition qu'on le fasse dans la clarté. Si vous êtes simplement pour cacher que vous êtes gouré pendant 25 minutes ou que vous avez porté des accusations qui étaient fausses, etc., il y a un moment, il faut assumer le fait de l'avoir dit. Ah bah du coup, il avait la main droite là-bas, ça viendra. Hein, mais... Ah ben voilà. Oh, il y a un galant homme.
Merci. Oui, bonsoir. Alors, je me demandais justement, on parlait de cette interactivité entre citoyens et journalistes, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup des whistleblowers, donc ces personnes, ces lanceurs d'alerte. Ça pose quand même beaucoup de questions sur la protection de ces lanceurs d'alerte, sur quelle légitimité on donne à ces lanceurs d'alerte, sur quel est leur rôle, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'informations là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc le SPIL, le syndicat professionnel de la presse d'information en ligne, a sorti récemment, au mois d'octobre, je crois, un manifeste qui regroupe les pure players, hein, comme on disait tout à l'heure. Attendez, je retrouve ma page. Donc ce manifeste... Pour un nouvel écosystème de la presse numérique, traite de plusieurs questions économiques, mais pas seulement, et notamment sur l'extension du droit à l'information, consacre quelques lignes, c'est court, hein, c'est un texte court, hein, en 10 points, donc aux lanceurs d'alerte et à leur protection. Puisqu'effectivement, ce sont des personnes qui se mettent en danger en fournissant des informations, qu'elles publient soit directement, soit en les donnant aux journaux. C'est la personne par qui le scandale arrive, et ce qui n'est pas nouveau ni propre à Internet, c'est que souvent, c'est la personne par qui le scandale arrive qui s'en sort mal à la fin. Donc nous demandons la protection de ces personnes, mais justement... le Sénat a voté la semaine dernière dans le cadre de la loi sur pas du tout une loi sur la protection des sources mais une loi sur l'expertise scientifique principe de précaution, expertise scientifique et lanceur d'alerte puisque ça concerne en particulier les personnes qui lancent des alertes sur la santé, les OGM
le
ou le Mediator ou des choses comme ça. Donc c'était, c'est rentré dans cette loi parce que ça faisait référence à ces affaires-là de santé publique. Donc petit à petit, ça évolue et c'est très bien. Enfin, dans le bon sens pour l'instant. Bien que certains soient... Par exemple, il y a un commandant de police qui s'appelle le commandant Pichon qui avait révélé des dysfonctionnements d'un fichier de police qui s'appelle le STIC. Et il avait donné à des journaux deux fiches de personnes fichées dans le STIC, Johnny Hallyday et je ne sais plus quelle autre célébrité. Il a été puni, carrément puni, dégradé et viré de la police, je crois.
Oui, je crois bien qu'il a été viré.
Il a été viré de la police. Alors que donc, sur ces fiches de personnalités connues, il était manifeste qu'elles étaient erronées voilà, et que ça pouvait arriver à tout un chacun, puisque c'est un fichier qui comporte également les noms des victimes, donc, alors que c'est censé être un fichier de délinquants, en grosso modo. Hein. Mais si vous allez porter plainte, vous pouvez très bien vous retrouver là-dedans. Et du coup, être connu des services de police, comme on dit entre guillemets, juste pour avoir porté plainte. Donc c'est un fichier qui dysfonctionne complètement et voilà, le lanceur d'alerte a perdu son boulot dans cette affaire. Donc il y a effectivement un besoin de protection. Mais c'est la loi qui va plutôt être utile, appuyée par les journaux.
Il y a la loi, il y a la pratique journalistique, hein, c'est-à-dire que c'était le cas avant Internet aussi, hein, bien sûr, l'obligation morale des journalistes de protéger leurs sources, quoi. C'est-à-dire notamment en journalisme d'investigation, de faire qu'on ne puisse pas savoir quel est le militaire qui a expliqué à qui comment telle brigade au Rwanda avait foutu à sac un village, violé 15 femmes et ainsi de suite, quoi. Hein, si le journaliste ne se débrouille pas à trouver d'autres moyens que d'avoir la seule source qui ait pu lui dire, ça c'était un vieux truc de journalisme partout, c'est qu'il faut absolument se débrouiller tout le temps à essayer d'avoir plusieurs sources sur la même chose, de façon à ce que ces sources soient non reconnaissables. Quand vous avez une source unique qui est la seule à avoir accès à quelque chose, vous avez intérêt à vous blinder avant de sortir les documents, quoi, parce qu'on sait que c'est lui qui vous les aura donnés, bien sûr, hein. Donc il faut le protéger aussi. D'abord vous perdez un informateur et ensuite vous risquez quand même de lui valoir beaucoup d'ennuis, quoi.
Exactement, mais c'est les lanceurs d'alerte, c'est un tout petit peu différent, parce que souvent, ils y vont tout seuls.
Oui, ouais, c'est ça, ils prennent eux-mêmes la responsabilité de s'exposer pour, quoi. Vous savez, selon, on avait un débat là-dessus, mais qui est compliqué, qui est un débat éthique complexe, hein, c'est selon la vérité, selon ce qu'est la vérité, c'est quoi Zorro ou le Chevalier Blanc, là, et puis c'est quoi, si c'est pas vrai ou pas complètement vrai comme c'est, entre le risque de dénonciation calomnieuse et le risque de laisser des délits ou des crimes impunis, il y a des fois où, compte tenu des éléments que vous avez entre les mains, même vous, journalistes, vous ne savez pas. D'ailleurs, on se pose la question souvent.
On se pose tout le temps la question, bien sûr.
C'est tout le temps ça, quoi. Ouais. Et alors, selon le risque, c'est vrai que le degré de risque qu'est prêt à prendre le témoin, souvent nous incite à aller dans tel ou tel sens, hein. Quand un type met en jeu sa carrière, sa vie, son emploi, ou etc., parce qu'il en a vraiment ras la casquette, à moins qu'on ait vérifié par ailleurs que c'était un mythomane, un fou, machin, etc., si on a recoupé au moins 90% de son histoire, on se dit, il y a quand même beaucoup de chances qu'elle soit vraie à 100%. Quoi. Voilà. Mais bon, c'est un boulot, oui, de tous les instants. Il y a un autre aspect sur Internet aussi, j'y pense, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu pareil, qui est intéressant, qu'on voit aussi dans les émissions de télévision et ailleurs, c'est la participation des internautes eux-mêmes en envoyant des vidéos, des photos, des sons, des trucs comme ça, etc. Et il y a une émission notamment sur France 24, comment il s'appelle notre camarade là qui fait ça, les alerteurs, les explorateurs.
Les observateurs. Les observateurs.
Excusez-moi, voilà, j'ai retrouvé plus le nom et tout. Tu vas me dire un mot, non?
Bah, c'est un peu, je suis pas spécialiste, non. Mais les gens, souvent, quand ils vont donner spontanément publier des informations sur le web, ça va être souvent en rapport avec donc quelque chose de proche de leur vie. Donc soit c'est une situation dans laquelle ils se trouvent, et ils vont pouvoir filmer partager cette vidéo. Soit c'est dans leur cadre professionnel, ils ont acquis une expertise et ils vont aussi la faire partager, ils vont avoir des informations sur tel ou tel sujet parce que c'est leur vie quotidienne au boulot. Donc il y a une fonction de complément ou de témoignage qui peut se faire toute seule. C'est-à-dire que la contribution de la personne n'a pas forcément besoin d'une médiation de journalistes très importante. C'est ce que permet aujourd'hui Internet.
Mais de ce point de vue-là, l'alerte par le public n'est pas une chose nouvelle. Enfin,
téléphone rouge.
Le téléphone rouge Europe. Hein. Ouais, j'ai commencé avec ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, bien sûr.
Ouais, voilà.
Et il y avait le téléphone rouge. Il y avait... Alors, je cherche son nom, le gars qui fait là, les observations. Observateur, explique, et alors je vous en supplie, allez voir le blog d'Erwan là-dessus, il y a sur les 14 logiciels indispensables, là, je ne sais plus quoi, vous allez voir, il y a un truc formidable. Il explique notamment comment on arrive à authentifier. Il vous arrive une photo là sur votre truc, c'est un mec d'Iran qui vous dit, tiens, je viens d'avoir l'assassinat de machin, ou voilà une photo de la manif de truc, ou voilà le tsunami à tel endroit, ou voilà, voilà, voilà. Ils n'arrêtent pas, ils en reçoivent comme ça 50 et 100 par jour. Bon, question est d'authentifier, quoi. Alors, il y a évidemment un tas de raisons. C'est quand l'observateur est déjà recensé par la chaîne depuis 22 fois, qu'il a toujours donné 22 informations convenables, on se dit que la 23e doit l'être aussi. Donc, on vérifie pas trop, etc. Mais deuxièmement, il y a aussi un tas d'outils considérables, techniques, qu'on ignore hein, et qu'on ne connaît pas. Moi, je les ai découverts aussi récemment, parce que c'est des nouveaux phénomènes, mais qui vous permettent, par exemple, d'insérer une photo sur Internet et de savoir en quelques secondes si cette photo est déjà passée sur le web. Et vous apercevez tout d'un coup que le mec qui vous envoie une photo du tsunami de machin en direct live, il vous envoie une photo de l'ouragan machin d'il y a 2 ans en Californie, etc.
Mais il y a eu plein de photos, enfin c'est arrivé au moment de l'ouragan de New York, il y a des fausses photos qui ont été...
Et les journalistes ont maintenant développé quand même un certain nombre d'éléments. Alors en plus, les photos, vous savez, les métadonnées des photos, par exemple, hein, vous pouvez toujours essayer tiens, de faire croire que la photo elle a été prise à tel jour, à tel endroit et par telle personne, ou ça, etc. Si on va chercher, et qu'on sait bien les chercher, les métadonnées du système, on sait très très bien par quel appareil ils ont été prises, de quelle façon, à quel endroit, avec quelle géolocalisation, et ainsi de suite. Quoi. Donc vous pouvez reprendre une photo d'Égypte pour une photo de Tunisie, normalement, des professionnels s'y laissent pas avoir. Quoi. Mais...
En effet.
Mais, il faut avoir les outils, il faut avoir le temps, il ne faut pas être
pressé,
parce que le nombre d'excuses...
C'est toujours, ouais. quand on se fait avoir comme ça, c'est toujours parce qu'on a été trop vite souvent. Ou trop en confiance, parce que justement, on connaissait la personne qui, 22 fois, elle a envoyé un truc bon, et la 23e, on se fait avoir. Et voilà, c'est ça. Et c'est toujours un manque de temps et qui entraîne une absence de vérification, et c'est pas vérifié. Et 9 fois sur 10, quand on vérifie pas, on se gourre.
Et, oui. Et le nombre d'excuses que j'ai vues, là, encore récemment, je trouve en télévision, c'est quand même bizarre. Quoi, hein, les photos de manifs ou les photos de machin, il y en a énormément, quand même. Sur le printemps arabe, il y a eu un nombre d'inversions. Alors, je sais pas, ça doit être mal classé dans les trucs là, tu vois, un nombre d'inversions entre l'Égypte, la Tunisie. Ou... Alors, je sais bien que c'est des photos qui se ressemblent un peu vues de loin, quoi. Mais quand même, enfin, pour quelqu'un qui connaît pas la rue ou la place Tahrir, enfin bon, voilà. Mais bon.
Et c'est trop vérifier. Vite. Non, mais c'est en même temps, c'est vrai que cette accélération des médias est, voilà, pose un certain nombre de problèmes parce que. Les équipes essayent à la fois de répondre à la vitesse et parfois oublient de ralentir, oublient de vérifier. Alors il faudrait être soit 2 fois plus nombreux, soit pour conserver cette vitesse, soit se dire on va prendre 5 minutes et puis on va regarder si ça va bien.
D'autres questions ? J'en prie, je crois que oui, merci.
Bonsoir, Yanis Delmas, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers et je travaille un peu sur ces questions-là. Vous avez surtout évoqué la presse quotidienne ou infra-quotidienne généraliste. Hein. Alors généraliste, c'est souvent un raccourci pour l'information politique, l'information sportive, l'information média et quelques autres. Hein. Alors, est-ce que finalement le problème, c'est réellement Internet ou le fait que peut-être un modèle qui voulait avoir d'un côté des journalistes qui étaient omnipraticiens, qui étaient spécialistes de tout, et d'autre part des titres qui contenaient toutes sortes d'informations, on ne va pas dire en vrac, mais en tout cas regroupées, dans ces quelques thématiques du généraliste. Est-ce que ça, ce n'est pas un modèle qui arrive à sa fin, alors qu'aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'on va préférer aussi bien pour le papier que sur Internet, mais peut-être plus encore sur Internet où on a des facilités d'accès, où on n'est pas obligé d'accéder à un titre particulier, mais où on peut finalement profiter simultanément de beaucoup de titres. Est-ce qu'on ne va pas plutôt accéder à de l'information à plus longue durée d'intérêt ? À plus longue vue, à moins court terme, d'une part, et d'autre part, où on aura affaire à de l'information qui sera produite par des journalistes ou des spécialistes scientifiques ou techniques de tel ou tel domaine, plus qu'à des personnes qui, pour dire les choses poliment, n'y connaissent pas toujours grand-chose. Et il n'est pas rare que dans un reportage de 57 secondes à la radio ou à la télévision, ou 6000 signes sur le papier ou l'écran, ben finalement se contredisent trois fois et où finalement voilà, où il n'y a pas toujours des sources qui permettent de vérifier. Où, voilà, les utilisateurs d'Internet ont pris d'autres habitudes de consommation de l'information, où on a la variété, où on a la ressource, où on a les sources, choses qui peut-être n'apparaissent pas dans la presse générale et qui la presse générale quotidienne ou infra-quotidienne, et qui peut-être aujourd'hui manquent cruellement aux lecteurs qui n'ont pas été bercés depuis leur enfance dans cette presse-là.
Non, je pense que vous mélangez deux choses. Donc, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait des journalistes, comme vous dites, omniscients, etc. Il y a dans les journaux généralistes, ou même à la télé, à la radio, des journalistes spécialisés. Il y a les journalistes économiques, les journalistes sportifs, etc. Vous n'envoyez pas un journaliste sportif à un sommet à Bruxelles. Donc ça n'existe pas. Donc en fait, les journalistes ont quand même plutôt tendance à s'y connaître dans le domaine qu'ils couvrent. Après, surviennent des événements inattendus. Donc, par exemple, Fukushima au hasard. Et votre correspondant au Japon, effectivement, il connaît bien le Japon, mais sinon, il est multifonction, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à la politique japonaise, à l'économie japonaise, à la culture japonaise. Son domaine, c'est le Japon, c'est pas spécialement le nucléaire, par exemple. Donc, quand tombe Fukushima, lui, ce qu'il connaît, c'est le terrain, c'est pas le nucléaire. Donc, voilà, il va falloir qu'il apprenne aussi. Donc je pense que les journalistes sont relativement spécialisés. En revanche, il y a effectivement un accès aux sources des journalistes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin pas aux sources en tant que personnes qui vont apporter une information exclusive, mais à de l'information qui est disponible à beaucoup plus de gens, à tout le monde, sur Internet. Donc vous pouvez choisir de faire confiance à des journalistes, ou vous pouvez choisir d'aller chercher vous-même auprès de sources plus spécialisées. Vous pouvez aller voir des blogs, des sites extrêmement spécialisés où les gens ont une connaissance très pointue d'un domaine, et ça va vous satisfaire parce que vous aussi, votre connaissance, elle est pointue dans ce domaine-là. Si votre connaissance n'est pas très pointue, vous n'avez pas forcément besoin justement de quelque chose qui va dépasser largement vos connaissances et qui va être aussi complexe à appréhender pour vous. Je pense que le journaliste d'un journal généraliste, c'est pas qu'il lui n'y connaît rien, c'est qu'il va essayer de faire partager ce qu'il connaît au plus grand nombre, et donc ne pas être forcément trop pointu. Donc il y a, soit il y a des, par exemple, si on veut nous traiter des sujets de manière très approfondie, on va s'y prendre en plusieurs articles qui vont aborder différents points. Et donc ça va permettre de creuser à chaque fois où on va prendre du temps, on va faire des séries d'articles. Mais si vous avez effectivement 6000 signes dans un quotidien papier pour parler d'une affaire dont la plupart des gens en plus ont entendu parler à la radio ou à la télé, etc., vous n'allez pas tout dire, vous n'allez pas dire déjà, pas en général vous ne dites pas tout ce que vous savez parce que vous ne voulez pas noyer le lecteur sous un océan d'informations pas toutes utiles, donc vous faites un tri, vous mettez ce que vous pensez le plus pertinent et libre aux gens qui ont envie justement d'approfondir le sujet, bah, d'aller dans des revues plus spécialisées vers des sources directes, des chercheurs pourquoi pas, qui publient des articles de manière indépendante sans passer par des journaux. Donc ces personnes peuvent être interviewées par un journaliste qui va faire passer l'essentiel du message d'un spécialiste du nucléaire, du Japon ou Dieu sait quoi. Et puis on peut aussi aller voir les travaux et puis pourquoi pas s'acheter un livre carrément, hein, si on veut vraiment connaître quelque chose à fond. Mais je crois que c'est pas tout à fait. Enfin, c'est deux façons de regarder le problème qu'il ne faut pas mélanger.
Je voudrais vous faire une réponse en trois lignes. La première, vous avez assez raison d'ailleurs, vous soulignez au fond l'espèce de liquéfaction quantitative de la presse généraliste. Hein. C'est-à-dire que de moins en moins de gens prennent un journal comme ça, un peu hasard, pour s'informer complètement, et ils s'en vont chercher ce qu'ils veulent sur Internet. C'est un peu ce que je soulignais tout à l'heure, en disant quand même que le risque d'une information entièrement et totalement à la carte était quand même un risque citoyen grave. Très grave. Ben, si. C'est-à-dire que si vous ne vous intéressez qu'au sujet dont vous avez décidé que vous intéressiez, c'est-à-dire les actions dans lesquelles vous avez investi en bourse, c'est-à-dire votre ville et encore votre quartier, c'est-à-dire ceci et cela, et que vous ne voulez pas entendre parler de tout ce qui se passe dans le monde, des guerres, des machins, des trucs, etc., vous pouvez les gommer, hein, ça, c'est pas un problème, etc. Deuxièmement, si vous n'avez pas, avec vos voisins, avec tous les voisins, à un même moment, un certain nombre d'informations de nature généraliste qui font les conversations de bistrot, qui font la discussion, qui font le débat public, etc., ben on arrive dans des civilisations dans lesquelles chacun il est dans son petit monde, hein, avec son écran et son machin. D'ailleurs, on en voit quand même pas mal, hein, avec leurs trucs là, complètement enfermés là-dedans, et qui ne sont pas disponibles pour le collectif, hein, pour le truc collectif. Donc j'admets et je comprends tout à fait, et je pense que votre diagnostic est juste. La presse généraliste est en train de crever parce que les gens considèrent que ça coûte encore trop cher de mettre 1 euro, 1,30 €, 1,50 €, etc., dans un truc qui finalement ne leur apporte pas infiniment plus que Internet, etc. Deuxième chose, pour être rapide, j'ai bien aimé votre expression de l'info à plus longue vue. C'est vrai que le grand avantage du net, c'est qu'on peut prendre des focales très très différentes, quoi. Et en effet, comme le disait Géraldine, vous pouvez très bien vous contenter de la petite alerte qu'il y a sur le site et machin, et vous pouvez très bien, avec tout le système des ramifications, ben tout ça, vous pouvez très bien aller jusqu'à l'encyclopédie pleine et entière sur le sujet que vous voulez trouver, hein. Donc, en effet, qu'Internet permette ça, ça c'est pas mal, et les médias ont un peu plus de mal à le faire, sauf qu'ils le font avec des liens, hein, ou avec autre chose. Par contre, je corrige immédiatement ce que je viens de dire sur Internet plus exigeant et plus, etc. Quand je parlais d'encyclopédie, je ne parlais pas de Wikipédia, hein, qui est quand même une catastrophe absolue sur le plan du contenu. Non, mais je le dis pour notre parti. Je vous conseille, j'ai essayé de le faire, je ne l'avais jamais fait. Comme un crétin, j'étais hier dans une intervention ailleurs à Strasbourg, et en partant dans le train, 5 minutes quand même, et je me suis dit, tiens, je n'ai jamais regardé ce que dit Wikipédia sur le journalisme. Vous n'êtes pas déçu du voyage, hein. Allez chercher journalisme dans Wikipédia, vous en ressortez liquéfié. C'est une nullité intégrale. Mais intégrale, c'est pas possible. Je ne sais même pas quelle est la... C'est pas signé, évidemment, comme d'habitude, mais je ne sais pas qui a dit, pu écrire des choses pareilles. Il y a à la fois tout et rien, mais c'est n'importe quoi. Voilà, bon, mais comme quoi ça arrive, hein. Mais en effet, je crois que l'évolution du généraliste vers le spécialisé, elle est vraisemblablement inéluctable. En tout cas, on la voit relativement en marche, quoi, hein. On voit les gens s'abonner à des... Pourquoi ? D'ailleurs, les magazines crèvent pas trop en France, hein. La presse magazine spécialisée, j'entends, hein. La presse magazine généraliste, c'est autre chose. La preuve, elle fait des couvertures un peu crado pour essayer de rattraper le lectorat. Mais la presse spécialisée, le moniteur des bateaux, le moniteur du bâtiment public, il n'a aucun problème pour exister, hein. Le quotidien du médecin, aucun problème pour exister. Bon, en dehors du fait que le laboratoire le paye, mais malgré tout, les médecins l'achètent quand même, parce que c'est leur truc, quoi. Et donc les trucs spécialisés, ça marche, quoi. Pardon ? Ça ? Ah, oui, ça, c'est, je pense que c'est encore de l'info, mais bon.
Non, mais il y a aussi plusieurs strates d'informations qui se superposent et qui vont s'accumuler dans le temps. C'est-à-dire que vous avez de l'actu, de l'actualité très chaude, qui a un intérêt, après que chacun juge si ça l'intéresse ou pas, de savoir que DSK s'est fait arrêter dans la nuit à New York, de savoir qui a gagné à l'UMP, de savoir qui a abandonné dans le Vendée Globe. C'est une information qui mérite aussi d'être transmise. Après, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, et c'est des choses qui vont vite. Ensuite, vous pouvez enquêter pendant des mois sur l'affaire Bettencourt. Je suis désolée d'en revenir toujours à cet exemple, mais il y a différentes façons d'informer, parce qu'il y a différents types d'informations. Il y a des informations qui ont des durées de vie brèves, d'autres des informations qui vont durer plus longtemps, des reportages qui vont parfois être effectivement démentis, pas parce que le journaliste sera mal travaillé, parce que la situation va changer très vite dans des situations de conflit, par exemple. Et ensuite, et d'autres reportages qui, un an après, seront toujours vrais, parce que dans ce bled, ça n'a pas bougé un an après. Donc, on ne peut pas faire trop de généralités sur les différents types d'informations qui sont produites, brèves, longues, fouillées, pas fouillées, généralistes, approfondies.
L'une des constatations qu'on peut faire, c'est que quand même, pour lutter contre, entre guillemets, Internet, etc., beaucoup de journaux, et notamment les journaux populaires du type François, etc., ont pris les recettes d'Internet, etc., c'est-à-dire se sont mis à faire des brèves. D'abord, vous n'achetez pas un journal pour acheter des brèves que vous avez justement partout ailleurs. La valeur ajoutée d'un journal, c'est des enquêtes, c'est des contenus, c'est des choses originales qu'il n'a pas repris ailleurs et qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Voilà la question.
Et c'est mieux quand elles arrivent en temps aussi, au moment où l'info est là, et pas une semaine après, parce qu'une semaine après, ça n'intéresse plus personne, votre formidable enquête sur un sujet qui est fini.
Bonsoir. Pour ma part, je pense que transmettre de l'information ne doit pas être un but, mais un moyen de faire quelque chose, d'en faire quelque chose. À ce titre, est-ce que vous, journaliste d'investigation, n'êtes pas un peu désabusé, ou n'allez-vous pas être désabusé de voir que la justice traîne un peu les pieds quant à des affaires telles que Tibéri, etc.
Oui, bien sûr, on peut être un peu désabusé. Nous, notre travail, ça va être quand même plutôt de transmettre l'information. Après, il y a d'autres pouvoirs. Le pouvoir politique, les électeurs aussi par leur vote, le pouvoir judiciaire, qui peuvent se saisir des éléments que nous, on aura portés à la connaissance du public. Donc, il y a une façon d'être désabusé quand la justice traîne les pieds. Il y a aussi autre chose, c'est que, par exemple, Tibéri, puisque vous citez cet exemple, a été constamment réélu. Donc, ce n'est pas seulement la justice, c'est aussi les électeurs, pour le coup, le public. Donc, nous, on est un maillon de ce travail. Après, on peut évidemment transmettre en plus des informations, des valeurs, de porter haut la démocratie, la transparence. À Mediapart, on a fait plusieurs appels pour l'indépendance de la justice, par exemple, etc., qui sont après, effectivement, entendus ou pas entendus par le pouvoir politique. Ça nous échappe. Là, je pense que nous, on fait notre boulot en mettant les choses sur la table et en essayant de les pousser le plus loin possible. Après, on passe le relais à d'autres acteurs.
Je vous en prie.
Bonsoir. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la presse en ligne. Je suis un usager de la presse écrite, qu'elle soit nationale ou locale. Hein. Et elle est en grande difficulté. Hein. Moi, je suis un jeune lecteur du Monde, donc j'ai commencé à lire le Monde en 67, 68, et je l'achète tous les jours depuis 70, 71, et Libé, depuis le numéro 1, puisque j'ai même fait partie des comités Libé de l'époque. Donc. Et puis, je ne vous dis pas le nombre de journaux qu'il y a à la maison. C'est intéressant quand les enfants sont tous là, parce qu'ils sont contents le matin, quand ils arrivent, ils peuvent voir les journaux. Mais on a aussi une presse locale qui est fondamentale. J'ai été élu à Poitiers pendant une vingtaine d'années. On a besoin de la presse locale. On avait une chance fabuleuse à Poitiers d'avoir deux journaux, même s'ils appartenaient au même groupe à un moment donné. Ils étaient rivaux. Et on n'avait pas 27 journalistes pour les deux, comme vous dans votre rédaction. On avait deux fois 27 pratiquement. Alors vous, pour traiter une information au niveau planétaire, vous n'êtes que 27, je peux vous dire que ça ne fait pas lourd. Je peux vous dire que si ce que vous avez dit là, vous l'écriviez, vous diriez que Libé vend 27 000 exemplaires en France. Écrivez-le, demain vous êtes assassiné. Au bas de la Grand Rue, il y a une dizaine d'exemplaires de Libé qui sont vendus. Quand j'ai monté un petit journal de formation, le Farci Poitevin, Libé vendait 200 exemplaires à l'époque, sur Poitiers, et Le Monde 800. On mesurait le niveau de développement, je dirais, culturel d'une ville au nombre d'exemplaires de Libé, du Monde, et au nombre d'employés dans une librairie. On avait 40 employés chez Gibert, on avait 900 exemplaires du Monde, on avait 300 de Libé. Alors quand vous dites que Libé vend 27 000, l'image, je veux bien, écrit, mais donc vous racontez n'importe quoi. Écrivez-le et vous verrez les réponses. Donc il y a l'instantané. L'instantané, c'est les nouveaux médias. Et puis, il y a ce qui reste. J'ai modestement fait 6 journaux avec mes élèves quand j'étais prof sur retraite. À Nîmes-Montant, à Fougères et à Poitiers. Et les gamins le vendent eux-mêmes. Quand un gamin va interroger des proches, ou Gilbert de Saille, ou Yvan Levaille ou autre, parce qu'ils sont parisiens et il était élève du collège, le papier ne sort pas tout de suite. Il faut qu'on le réécrive, qu'il faut corriger les fautes de français, etc. C'était donc peut-être autrefois, c'était il y a 30 ans. Donc la presse écrite, qu'elle soit collégienne, lycéenne, on a un besoin, c'est fondamental. Eh bien, Sud-Ouest est en crise. Ici, on a perdu un ou deux journaux. On avait une quarantaine de journalistes qui faisaient leur boulot. En tant que lui, c'est intéressant, parce qu'on avait deux journaux différents. Quand un se barrait, eh bien, l'autre restait. Et on disait, tiens, t'as pas un communiqué de presse quand vous l'ameniez en tant qu'élu. Tu sais, trop long, etc. L'autre le prendra. Donc il y avait tout un travail qui se faisait et qui n'était pas dans l'instantané. Et je crois que l'écrit amène une réflexion, un usage. Vous avez dû voir quelques ouvrages qui sont sortis récemment sur le cerveau formaté pour l'écrit.
Sur le web, c'est de l'écrit essentiellement. Hein.
Oui, mais ce n'est pas les mêmes gens qui le lisent parce que vous n'allez pas prendre le web dans les chiottes, à la cuisine ou ailleurs.
Mais détrompez-vous.
Et vous ne participez pas. Vous ne participez pas collectivement, familièrement, je veux dire, avec les enfants, même les petits-enfants maintenant. Vous leur apprenez à respecter l'écrit. Gamins, déchirent pas, mes gamins ou mes petits-enfants, déchirent pas un journal ou un livre. Donc, il y a toute une étude qui est faite. Le cerveau est en train de analyser un petit peu partout. Donc, se déforme. Et je crois que perdre le sens de l'écrit, ne pas voir aussi l'intérêt du contact que l'on a à l'égard de quelques milliers de journalistes, parce que, vous savez, il y a quelques années, je connaissais les chiffres exactement, parce que ma gamine était à l'école de journalisme, une des neuf à l'époque. Il n'y avait pas Sciences Po à l'époque. Reconnue. Il y avait 300 journalistes, même pas, qui faisaient l'école de journalisme il y a 7-8 ans. Hein. Maintenant, peut-être un peu plus. Donc, des gens formés sur les 300 qui étaient embauchés. Hein, ça n'en faisait pas beaucoup. Et des gens qui étaient formés déjà, qui avaient à écrire, qui étaient formés et surtout qui avaient l'approche, le recul. Et le journaliste de la presse écrite locale, le lendemain, il voit 10-15 personnes dans la rue.
Bon, et alors, Coccinelle,
alors je considère, moi, que l'écrit actuellement. Et en crise fondamentale.
Hein, et en crise fondamentale. C'est le journal local, Internet.
Ouais, et que qu'il y ait d'autres moyens de communication. Autrefois, on parlait beaucoup de la télé, c'était les mythes des années 70, ou la radio. Mais je crois que perdre l'écrit, perdre ces quotidiens locaux, perdre ces journalistes, c'est perdre des repères fondamentaux que ne pourront pas, je dirais, rattraper Wikipédia, hein, ou d'autres moyens de communication.
Parce qu'il y a un contact, justement, je vous dis une réflexion directe. Il y a des journaux locaux qui se créent sur le web.
Qui fait appel à notre pensée, tout simplement. Hein.
Allez, la défense et l'illustration de la civilisation numérique. Alors, c'est sûr que l'écrit a évidemment ses lettres de noblesse et que la pensée, le recul, la synthèse, ça existe. Alors, je crois que ça existe aussi quand même sur Internet. Il y a des productions sur Internet qui sont... Même le système du web documentaire, par exemple, est souvent un système assez travaillé. Enfin, quand vous regardez un certain nombre de
documentaires... Très travaillé, ça fait appel à votre intelligence. Il faut suivre, il faut naviguer, il faut chercher son chemin, on réfléchit, on regarde... Voilà, on est comme dans un beau livre, on a des belles images... on a des textes intéressants, on a plein d'infos, on n'y passe pas 5 minutes, on y passe plutôt 2 heures, si on les trouve.
Vous savez, sur la question le livre et Internet, par exemple, c'est très ambigu aussi. Quoi. On peut dire qu'en effet, Internet ou le numérique, entre guillemets, hein, aura tué le livre papier, etc. Et en même temps, je rencontrais une fédération d'éditeurs, je ne sais plus quand, à Paris, il y a quelques mois, qui me disait « Non, ce n'est pas vrai, Internet a sauvé le livre rare ». Par exemple, quand on fait un livre sur, je ne sais pas quoi, moi, hein, les vitraux de Notre-Dame-la-Grande, non, là, j'ai pris un exemple trop proche, mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est impossible aujourd'hui, quand vous êtes éditeur, de vendre un bouquin comme ça. C'est tout à fait possible si vous en faites la pub sur Internet à tous les gens qui s'intéressent aux vitraux dans le monde, etc. Et vous trouvez d'entrée de jeu les 1500 personnes qui vont vous acheter le livre de luxe sur... De luxe, bien sûr, évidemment. Bon, mais vous n'allez pas être obligé de le mettre dans chacune des librairies du monde. Et il y a une édition de livres rares, de livres commandés, de livres souscrits, etc., qui est complètement renouvelée par Internet. Bon, alors en même temps, hein, y en a d'autres qui plongent dans les rayons de chez Leclerc, s'ils n'y sont pas, quoi. Notamment. Phrase bizarre, mais bon.
Non, ne mettons pas tout sur le dos d'Internet, qui n'est pour rien sur la pauvreté des rayons de Leclerc.
Pardon, excusez-moi.
Je voulais juste défendre, en fait, et rappeler ce qu'a dit tout à l'heure Madame Delacroix, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle révolution industrielle et qu'il ne faut pas opposer, pour moi, presse écrite papier et presse écrite numérique. Aujourd'hui, on est juste dans une phase de transition et qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire la presse Internet tue la presse papier. Non, c'est juste un changement qui se fait dans nos modes de consommation, des changements qui se font dans la société, qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être aux sociétés éditrices, aux journaux, de réfléchir à des nouveaux formats qui seront numériques dans un très lointain futur et qui aujourd'hui pourraient réfléchir à juste cette transition en fait. Il y aura toujours des lecteurs papier, et aujourd'hui il y a des lecteurs papier et des lecteurs sur le numérique. Il y a aujourd'hui des lecteurs qui font les deux aussi à la fois. Voilà, il faut juste en fait ne pas dire que l'un tue l'autre. C'est aussi aujourd'hui à la presse de dire c'est peut-être à nous de changer, de peut-être trouver de nouveaux modèles, comment évoluer et trouver de nouveaux modèles comme vous l'avez développé avec de très bons exemples comme les Mediapart en France ou ProPublica aux États-Unis. C'est juste trouver des nouveaux modèles pour produire une nouvelle information qualitative. C'est juste, voilà, c'est peut-être fondamentalement la chose est ici. Après, je pense que sur la presse papier, avant que Internet existe, il y avait des mauvaises pratiques, il y avait des mauvaises choses qui se passaient aussi dans la société, et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui sur Internet. Voilà, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques.
Il y a une piste qui peut être intéressante, qui n'a pas été beaucoup explorée en France, sauf peut-être un peu par le journal Les Inrocks depuis qu'ils ont leur site Internet, c'est de mélanger une information quotidienne en ligne et une information hebdomadaire papier. Et par exemple, en Espagne, il y a un site qui se lance sur ce modèle par une équipe de journalistes issus de la presse écrite qui vont lancer un site Internet d'actualité qui sera donc quotidien, permanent, et en même temps un hebdomadaire. Donc avec le site sera entièrement gratuit et financé plutôt par la publicité, et l'hebdomadaire, évidemment, ils vont le vendre et faire leurs recettes comme ça. Donc ça peut être aussi des pistes de complémentarité sur des rythmes différents où vous pouvez aller plus vite sur Internet et mettre aussi en même temps beaucoup plus de volume, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais un journal papier est limité dans son nombre de pages, dans son nombre d'articles, etc. Un site Internet ne l'est pas, donc vous pouvez mettre beaucoup plus de choses. Vous n'avez jamais de problème de place dans les journaux papier où j'ai travaillé pendant longtemps. Il n'y avait jamais assez de place pour tout mettre. Sur un site Internet, vous n'avez pas ce problème. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, une information rapide, abondante, voilà, qui va vite, peut-être qui va être beaucoup très illustrée ou avec des vidéos sur un site Internet. Et puis, un hebdomadaire qui va peut-être être plus d'enquête, plus de fond, plus de réflexion, peut-être plus publier des contributions, des tribunes, pourquoi pas des choses.
Est-ce que c'est un scoop? Mediapart va lancer un hebdo, non? C'est un scoop ou pas?
Non, parce non, que pas du
le
tout.
Le dernier qui a fait ça, il s'est planté, c'est Bakchiche quand même.
Non, 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 on fait pas ça.
Non, non, d'accord. Non, non. Bon, okay. Bon. Non mais vous avez tout à fait raison. Je pense que on a dit pendant longtemps, un média ne tue jamais l'autre, quoi. Hein, c'est-à-dire, la radio n'a pas tué la presse, la télévision n'a pas tué la radio, et Internet ne tuera pas les autres. C'est un peu vrai, mais les oblige sacrément à changer, en effet, leur méthode, à garder leurs objectifs, à garder leurs équipes s'ils le peuvent, financièrement notamment, etc., mais à trouver des nouveaux modèles qui sont forcément... Parce que je ne crois pas qu'Internet soit à la limite un nouveau média. D'une certaine façon, c'est un métamédia, c'est un truc... Il y a de l'écrit, il y a du son, il y a de l'image...
Et ça n'est pas que ça. Parce qu'on peut faire ses courses sur Internet, voilà. On peut faire plein de choses qui ne relèvent pas du média, proprement voilà. Au sens classique
on
du terme.
On fait pas ses courses sur Mediapart, quand même. Non, vous ne vendez rien.
Si, si, on vend des livres, des e-books.
Oui, vos livres, ouais, ouais. Non, non, mais c'est juste.
Non, mais voilà, on peut faire plein d'autres choses que de s'informer sur Internet. C'est un média, c'est aussi autre chose. On peut aussi regarder des films. Alors, voilà, c'est du cinéma. C'est un magasin, on peut tout acheter.
Est-ce que je peux faire un sondage? Après, je te demande, pardon. Non, vas-y. Est-ce que je peux faire un sondage là? Qui a un compte Facebook, hein, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez lever la main? Waouh! Ok, je ne fais pas la preuve inverse de qui n'en a pas. Hein, d'accord. Qui a déjà écrit un commentaire sur un article, un forum, un truc comme ça, etc.
Pas mal.
C'est pas mal.
Une bonne moitié, je dirais.
C'est drôle, hein, tu vois.
Eh ben, les poids de vin sont beaucoup plus impliqués que les
Hier, j'étais dans une école de commerce, paraît-il, moderne et tout ce qu'on veut, etc., avec 800 jeunes de première année d'école de commerce, machin, etc. J'ai fait cette demande. Alors, soit ils pionçaient tous, remarque, c'est possible, après tout. J'ai pas imaginé ça. Au fond, c'est vrai. Hein, voilà. Et il y en a, quatre qui ont levé la main, qui avaient écrit déjà sur un forum ou un truc comme ça, sur 800, quoi. Et puis, à peu près, un tiers de la salle, c'est tout, quoi. Il dit, j'ai un compte Facebook, vous avez vu les chiffres, et mais il mentait. Hein. Moi, je crois aussi, il ne voulait pas, au moins sur la deuxième question. Ouais, bon, allez, ok. Allez, qui a eu une mésaventure pour en terminer ? Ou au contraire, allez-y, autre question.
Non, c'était juste deux remarques, en fait, sur ce que vous avez dit. Souvent, enfin, quand on écoute les journalistes, ils se plaignent parce que, effectivement, la presse écrite ne se vend plus et que Internet fait baisser les recettes de la presse écrite. Mais jamais on entend parler de la baisse des coûts grâce à Internet, notamment en investigation. Quand un reportage vous prendrait 5 jours pour le faire, Internet diminue énormément le coût. Et je pense que la presse a plus gagné grâce à Internet qu'elle ne l'a perdu. Et si aujourd'hui, alors là, ça devient vraiment plus mon avis, les médias généralistes sont en perte de vitesse, c'est aussi avec leur qualité qui n'est pas forcément excellente. J'ai l'habitude de lire quand même la presse assez souvent. Ça remonte à longtemps, le dernier article qui m'a vraiment heurté, quoi.
Surpris ou...
Oui, voilà, c'est ça. J'ai vraiment trouvé puissant, quoi. Donc, voilà.
Il y avait un président de la presse française, Jean Miot, ancien patron de Figaro, qui avait dit un jour, en ouvrant un congrès de la presse, qui se plaignait que ça ne marchait plus, etc. Il avait dit, chers confrères, et si on faisait des journaux intéressants ? Il y en a un paquet qui avait pris ça, comme ça, etc. Je voulais simplement juste dire un mot, parce que c'est quand même des sujets qui me tiennent à cœur, sur le fait qu'Internet permet en effet de limiter les frais des enquêtes. Bon, par exemple, il y a eu une très belle enquête du Nouvel Observateur sur l'explosion de Fukushima, de son envoyé spécial Jean-Paul Marie, « J'ai cru que j'allais mourir sous les flammes », qui était entièrement bidonné grâce à Internet, quoi. C'est-à-dire qu'il avait piqué dans 25 journaux du monde entier et d'autres reporters du monde. Il n'a pas quitté son bureau du vendredi midi du mercredi midi au jeudi soir en écrivant ça et en prenant les citations, les exemples, les photos, les machins de tous les autres et simuler un reportage sur place grâce à Internet, quoi, ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Mais vous avez raison, globalement, bien sûr. Heureusement qu'Internet permet un tas d'économies d'échelle.
Non, mais ce qui fait baisser les coûts, ce n'est pas tant sur l'enquête. Enfin, on peut trouver des informations voilà, sur Internet sans forcément se déplacer comme on le faisait autrefois, mais c'est surtout vraiment l'impression et la distribution. C'est ça qui le coût qui plombe les journaux. Et la différence entre un journal papier et un journal en ligne, elle est vraiment là. Mediapart n'aurait pas pu lancer un journal papier qu'il aurait fallu imprimer et distribuer avec les NMPP. Avec le coût du papier, ce coût de la distribution, en allant dans des kiosques où passe jamais personne pour l'acheter en plus. Donc c'est vraiment cette espèce de matière première, là, voilà, qui est le papier, qui fait la différence. Après, il y a aussi... parce que si vous prenez un journal, des journaux existants, Le Figaro, Le Monde, Libération, Internet ne fait pas baisser intrinsèquement le coût de fabrication du journal papier. Il y a un peu marginalement sur les frais, voilà, les frais des journalistes peuvent être réduits. Mais ce qui plombe ces journaux, il faut bien voir, c'est vraiment d'une part qu'ils ne se vendent pas, mais surtout qu'ils sont très chers à fabriquer à cause du papier et de la distribution.
Une dernière pour la route, je vous en prie. Au moins deux dernières pour la route, allons-y. Trois dernières pour la route, mais on va y faire vite.
Je voulais replacer la discussion sur un autre plan, parce que là, on a beaucoup comparé... journalisme à l'ancienne et journalisme numérique, quoi, schématiquement. Mmh. Sur la relation journaliste et Internet, j'aurais voulu pointer l'événement qui a été quand même assez majeur à l'époque d'un certain référendum, à savoir un quasi-unanimisme de l'ensemble des médias sur une position. Et un résultat du vote qui a été plutôt dans un autre sens et en grande partie construit grâce à Internet. Dans quelle mesure ça vous interroge en tant que professionnel de la profession, comme on dit si bien, c'est-à-dire sur ce rôle que vous avez quand même, certes d'informer, mais aussi de porter la bonne parole, c'est-à-dire de faire partie d'un certain discours.
Je pense que c'est un problème typiquement français d'un journalisme parisien, voilà, qui s'auto-entretient de journalistes qui passent d'un journal à l'autre, bon, ce que j'ai fait moi-même, hein, mais en étant toujours abreuvé aux mêmes sources et en manquant d'indépendance d'esprit. Donc voilà. Mais c'est lié aussi à tout un écosystème qui est justement de financement. Bah, publicitaire, encore pas. Non, pas, c'est pas ce que je voulais dire. Parce que la publicité, vous la maîtrisez pas. Elle vient pas dans votre média. Pardon ? Elle maîtrise. Oui, on peut. Bon, alors, évidemment, il y a plein d'histoires, et encore des récentes, de journaux qui se fâchent, on va dire, qui fâchent leurs annonceurs, lesquels annonceurs coupent les budgets, donc ça calme. C'est clair. Libé, pour citer le dernier. Mais quand, en fait, quand vous appartenez oui, justement à Bernard Arnault ou à Bolloré ou Le Monde maintenant, qui appartient à Niel, Berger, Pigas, machin, à des gens qui sont proches du pouvoir, en fait, c'est une élite économique et politique qui... voilà. Voilà, c'est ça.
Oui, pour être clair, il s'agissait du référendum sur l'Europe, bien sûr, hein, où on voyait bien que majoritairement, la population était pour l'Europe, et où il a fallu que ce soit un prof de Montpellier, si je me souviens bien, ou enfin un blogueur de Montpellier, dont le nom est de rester...
Étienne Chouard.
Étienne, bien sûr. Voilà. Étienne Chouard, qui a lancé la révolte, si j'ose dire, qui a mobilisé le toit. Oui, oui, enfin, au départ, voilà. Mais c'est, moi, je trouve ça plutôt réjouissant. C'est-à-dire que la capacité d'Internet, pour le coup, à permettre des opinions différentes et à permettre qu'une opinion bascule, eh ben, c'est pas si mal. Hein. Vous savez, le site OMINews à Séoul a été le premier qui a fait tomber quand même la dictature il y a 8 ans, 9 ans, je ne me souviens plus. OMINews, c'était le premier site vraiment participatif hein, où 2 500 000 Coréens du Sud ont dit non, on n'en veut pas du mec là. Et puis, ah ben toi aussi, moi non plus. Ok, hop. Et ça s'est propagé partout et tout le monde a dit on le vire. Ah, bon, voilà, c'était comme ça, mais il y a des mouvements comme ça. Alors, il faut se méfier, des fois, ça peut aussi. Bon, bref. Question ?
Alors moi, ce n'est pas une question, c'était simplement, voilà, c'était simplement pour dire ce que je pense. Voilà, alors, je ne voudrais pas faire l'apologie d'Internet, même si je trouve que c'est un outil formidable. Ce qui m'intéresse dans le journalisme, c'est d'avoir accès à l'information de quelque manière que ce soit. Et je pense que depuis qu'on a Internet, alors quelle que soit l'information, est-ce qu'on peut appeler information, vrai ou faux, l'accès pour moi est important à l'information. Depuis tout à l'heure, je vous écoute et parfois j'étais un petit peu choquée par certains de vos propos. Pour moi, pour ma part, je pense qu'Internet est complémentaire de la presse papier et permet d'approfondir l'information de la presse écrite, ce que mes grands-parents ne pouvaient pas faire et prenaient à leur époque toute information pour argent comptant. Vous avez utilisé aussi le terme « lutter contre Internet ». Et j'aurais aimé plutôt entendre que, voilà, que les deux peuvent subsister. Vous avez dit aussi que les gens considéraient, alors vous n'avez pas dit inutile, mais je l'ai interprété comme ça, payer 1,30€ par jour pour lire la presse quotidienne. Et moi, je voulais dire surtout que les gens préfèrent acheter une baguette pour se nourrir, parce que c'est aussi important. Internet propose, sans se déplacer aujourd'hui, de faire ses courses pour manger, mais aussi pour lire, sans sortir. Donc voilà, tout le monde ne peut pas sortir. Et puis aussi, il y avait une phrase, depuis tout à l'heure, je vous entends, et bien que je sois une... Je lis énormément, toute presse confondue, beaucoup de presse spécialisée, dont Géo, voilà, puisque je suis intéressée par les voyages. Il y a une phrase qui me vient en tête, c'est une phrase de Darwin qui disait que l'espèce qui survit est celle qui s'adapte le mieux à son environnement. Et je pense que certainement que la presse écrite, ce n'est pas une critique, mais il me semble qu'elle n'a pas su suffisamment rapidement s'adapter aux nouvelles technologies. Voilà, ça reste mon avis.
Merci, merci. Mais on a partagé une partie, vous inquiétez pas, pas de souci. Non, mais c'est bien, c'était une bonne contribution. Merci. Merci.
Oui, une intervention sur l'interdépendance, l'interaction entre le contenant et le contenu. On parle des journaux Internet, sur Internet, et on dit c'est de l'écrit. Certes, c'est le support qui diffère. D'un côté, il y a du papier, de l'autre côté, il y a l'écran. Et est-ce que ça apporte des modifications dans le métier de journalisme? Dans le métier de journaliste, est-ce que ça apporte des informations, des modifications dans la nature de l'information qui est donnée? Je crois que oui. Vous disiez tout à l'heure, madame, que sur Internet, on a la place. On a la place, on peut rire aussi longtemps, aussi long on veut. Hélas, cela se ressent parfois. Lorsque Mediapart consacre 4 pages à un article qui, décemment, aurait parfaitement tenu en une demi, je me dis que quand même, c'est une facilité tout à fait abusive. C'est un exemple. Mais autre chose, dans un journal, dans l'écrit, on peut avoir des règles graphiques très, très fermes, une mise en page très ferme. À tel endroit, le commentaire, à tel endroit, l'information. Sur Internet, c'est la souplesse du support fait que on n'a pas obligatoirement cette règle-là. Et quand je lis Mediapart, ce qui m'arrive tous les jours, je suis parfois un peu lassé par l'invasion du commentaire qui parfois enterre complètement l'information. Alors bien sûr, les grandes enquêtes type Tech & Din, elles sont fort intéressantes, mais ce n'est pas tous les jours qu'on trouve des révélations du type Tech & Din, mais par contre tous les jours, on trouve ce commentaire totalement envahissant qui finit par... L'information disparaît parfois. Et cela, je pense que ça tient à la forme. Autrement dit, au manque de rigidité de la forme. Ce qui est un avantage dans la volume et dans la forme devient un inconvénient parce qu'alors, il faudrait que les journalistes aient une éthique de fer et véritablement un code extrêmement rigide pour s'y tenir. Dans la mesure où ils ne sont pas obligés de s'y tenir du fait de la matière, du fait du support. Donc, mais bien entendu, ce sont des impressions, mais qui demandent effectivement soit une opinion contraire, soit des explications. Mais je vous dis simplement ce que moi, en tant que lecteur, je ressens. Et puis, une dernière chose, si vous permettez. Il se trouve que j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans la presse écrite. Et lorsque je faisais une erreur, et que je me disais, mais bon sang, l'heure du bouclage était passée, c'était imprimé. Et l'erreur était dans le journal. Et je me disais, mais demain, il y a des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui vont dire, mais quel âne, celui-là, comment a-t-il pu écrire une chose pareille? Eh bien, avec le support écran, il n'y a plus cette panique-là. C'est pas grave. Wikipédia, c'est pas grave. On écrit des conneries, mais demain matin, quelqu'un va corriger. C'est pas dramatique. Et moi, si j'ai fait une bêtise dans mon article sur Mediapart, tout à l'heure, je vais la corriger, bien sûr. Elle sera passée à peu près inaperçue. Autrement dit, toutes ces facilités, est-ce que ce n'est pas quelquefois, est-ce que ça ne donne pas envie parfois de se laisser aller?
Non, alors je ne crois pas. Alors je vais commencer par à l'envers.
La parole est à la défense.
Donc sur les erreurs qu'on corrige, je pense qu'à Mediapart nous sommes extrêmement vigilants, qu'on n'en fait pas beaucoup et que c'est pas à la fin de chaque article que vous voyez cet article a été corrigé, après tatati tatata, on est désolé, on s'est trompé, hein, des rectificatifs comme il y en a dans tous les journaux, c'est vrai. Non, c'est quand même une chance justement de ne pas laisser perdurer une connerie. Et ça n'est pas une facilité parce qu'on est, super vigilant, même si c'est 5 minutes, on est aussi ridicule. Et puis, quand on se trompe, ce qui est bien, c'est on se trompe et les lecteurs tout de suite le voient parce qu'il va y avoir quelqu'un qui s'en aperçoit, qui connaît le sujet. Il y a des erreurs qui sont effectivement bêtes et puis il y a des grosses. Parfois, ça peut être de l'inattention, ça peut être on s'est trompé, on a confondu, enfin, toutes sortes de choses peuvent arriver. Mediapart a quand même cette particularité d'être le seul site internet avec un correcteur qui relie les articles. Il y en a même presque plus dans les journaux papier, et nous, on en a un. Oui, absolument. On en a même deux, à vrai dire. Mais ouais. Donc sur les erreurs, je pense que on a rien. Enfin, tous les journalistes de Mediapart, aucun journaliste de Mediapart n'a perdu en vigilance. En venant du papier, pour ceux qui viennent du papier. Ensuite, sur le mélange des articles et des commentaires, je trouve que votre critique est bien sévère, parce que justement, on fait beaucoup d'efforts en ce sens, que les articles... Alors évidemment, certains journalistes ont des penchants, mais nous avons des enquêtes, des reportages, des interviews, c'est marqué dessus, enquête, reportage, interview, analyse. Alors là, dans l'analyse, on y va un peu plus. Et puis, parti pris, quand c'est vraiment... une prise de position sur un sujet d'actualité où on a envie de dire ce qu'on pense, tel ou tel journaliste a envie d'exprimer son opinion, c'est marqué dessus aussi et ça s'appelle parti pris. Donc on a quand même ce souci, même si on n'y parvient pas toujours, de séparer le commentaire des faits. En même temps, parfois le lecteur aussi confond le commentaire et l'analyse, justement. On essaie de remettre en contexte, d'expliquer pourquoi du comment, et parfois ça peut être pris pour un commentaire, un jugement de valeur, ce qui n'est pas forcément le cas. Ensuite, sur la forme et son influence sur le fond, moi, je crois au contraire que Internet est très rigide. Puisque vous connaissez bien Mediapart, je pense que vous voyez tous les jours à peu près la même chose. Et quand vous lisez les articles, ils ont tous la même tête. Ce qui n'est pas le cas dans Libération, par exemple, qui est un journal richement illustré. Mais donc, tous les jours, vous avez des mises en page différentes, une qui est différente, des photos différentes, des photographes qui travaillent différemment, des dessins, des numéros spéciaux, par exemple illustrés en bande dessinée, des choses comme ça. Beaucoup plus de variété que sur un site internet où finalement c'est surtout à Mediapart un peu toujours pareil. Et chez les autres, c'est surtout la pub qui change. Et les articles sont toujours les mêmes. C'est le truc au milieu tout gris. Donc je suis, voilà, sur la forme, je crois qu'elle est plutôt plus rigide sur le web.
Il va falloir vous dégriser le centre, alors, si j'ai bien compris, pour être... Merci. Écoutez, je crois qu'il y a encore une petite question. Non ? Oui ? Hop, voilà, il a le micro.
C'est une question...
Mais on jure que dans 4 minutes, on a rendu la salle parce que c'est promis.
D'accord, merci. En 30 secondes par question, ouais, ouais. 3 minutes 30.
Pas de soucis.
C'est une question qui est plus d'ordre économique. On a vu, puisque c'est le sujet de la conférence, qu'on est sur une révolution du support, plutôt, qui entraîne une révolution des usages et également des acteurs. Vous l'avez dit dans la conférence, et on l'a également vu sur le sujet d'actualité entre Google et la presse récemment, que la presse traditionnelle a du mal aujourd'hui à prendre ce virage en termes de rentabilité économique, a du mal à trouver des systèmes de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui travaillez dans le milieu de la presse numérique, est-ce que vous observez plutôt un environnement nouveau avec un terreau pour des nouvelles sociétés où on a l'impression que les sociétés traditionnelles vont finalement réussir à se financer dans ce nouvel environnement technique ?
Je leur souhaite, mes camarades et confrères de la presse papier, d'arriver à se transformer. Je ne suis pas sûre que tout le monde y parviendra. Dans les journaux français, mais on voit que c'est... suivant les pays, ça résiste plus ou moins bien, mais aux États-Unis, ils ont été aussi très, très frappés par ce genre de crise et plein de quotidiens enfermés. En Allemagne, deux cette semaine. Le FT Deutschland et puis un autre journal, la Frankfurter Rundschau.
Le Rundschau, oui, pas ouais. Allgemeine.
Donc deux quotidiens allemands. Donc c'est difficile. Je pense que ce qu'on voit en fait émerger et qui nous concerne en particulier, mais on n'est pas les seuls, c'est justement le paiement d'informations en ligne qui a commencé par être entièrement gratuite. Quand au début des années 2000, tous les journaux papier en l'occurrence ont mis leur contenu et se sont mis à produire des contenus spécifiques. Gratuitement en ligne. Ensuite, les télés, les radios s'y sont mises un peu, mais ils sont toujours quand même un peu à la traîne. Et petit à petit, les journaux donc issus du papier, les sites issus du papier, développent des formules payantes, que ce soit les Échos, Le Monde, Libération, etc. Ils essayent de faire payer le client en ligne et ça aurait tendance à marcher un petit peu. Bon, ça marche bien pour nous. On a été les premiers sur ce marché. On a attraper un maximum de clients. J'espère qu'on en aura d'autres, des lecteurs. Quand il y a aussi la question des tablettes, je pense que ça peut être des modes de lecture un peu à cheval entre le papier et l'écran, puisque vous retrouvez votre mise en page, ou ça peut être des choses plus travaillées que sur les sites web proprement dit, qui sont justement très, très formatés. Donc je pense qu'une économie se crée de la vente d'informations en ligne. Mais ça reste des choses encore très, très confuses, dispersées. Personne n'a vraiment le bon modèle. Mais ça va venir. Entre la télé, les radios ont trouvé leur équilibre. Les médias écrits vont le trouver aussi.
Voilà, grande période de mutation, mais plus que mutation, de révolution, merci. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Veuillez excuser l'absent, mais qui le pauvre, je crois, aurait vraiment préféré être là pour le coup. Il n'y a pas de souci. Et puis donc, rendez-vous peut-être à une date qu'on fixera pour la dernière réunion de ce cycle de conférences qui essaye de vous faire accéder à une meilleure compréhension des médias. Merci à tous.
Merci.